Et il est également professeur de littérature comparée à l'université Bar-Ilan, à côté de Tel Aviv. Il a écrit beaucoup de livres, je suis incapable de faire de vous laisser ceux qui vous les citer tous. Moi, j'ai ceux que je tiens particulièrement à cœur, comme le livre brûlé, qui est l'histoire du rabbin Nachman de Brasslav, et qui est un grand maître parassidique. Et puis le Tzimtzoum, et puis lire aux éclats, et puis la bibliothérapie, et puis j'en oublie parce que. Mais vous avez un stand de la procure à qui j'ai demandé d'être présent ce soir, qui peut vous proposer certains de ses ouvrages, et puis le professeur Martin Watney est tout à fait d'accord pour vous dédicacer des livres à la sortie. Exceptionnellement, vous savez, d'habitude, on fait des exposés et puis on pose des questions à la fin, mais notre conférencier de ce soir préfère que les questions viennent au fur et à mesure de son exposé. Ça ne le déstabilise pas du tout et il réagira en temps réel. Voilà, je lui laisse la parole et je vous remercie.
Donc ce que je vais faire, c'est de la place. Non, mais c'est sérieux, hein, c'est une soirée sérieuse. J'ai compris ce qui dérange. C'est les fleurs.
Qui a écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle L'esprit de l'athéisme, introduction à une spiritualité sans Dieu. Et je vous le recommande parce que c'est un véritable chef-d'œuvre. En général, on minimise en disant un petit chef-d'œuvre. Là, c'est un véritable chef-d'œuvre. Et il dit une chose extrêmement intéressante dès le départ. Je vous donne les références. C'est page 81 et 82. Il fait une première remarque, simplement méthodologique, et je vais dire lexicographique. C'est-à-dire qu'il va nous rappeler précisément ce qu'on appelle la foi, mais il va le dire de manière presque négative, en essayant de définir ce que lui-même est, à savoir un athée non dogmatique. C'est comme cela qu'il se définit. Et souvent, ses amis lui disent, mais tu es athée, mais pourquoi tu ne dis pas que tu es agnostique? Alors, il va faire la distinction entre l'athéisme et l'agnosticisme, et va définir la foi. Je vous le lis parce que, d'abord pour commencer, c'est bien de lire quelqu'un d'autre, et puis comme il le dit bien, c'est pas la peine que je fasse semblant de le dire aussi bien, parce que c'est écrit. Le titre s'appelle « Athéisme ou agnosticisme ». Peut-être qu'il est athée parce que c'est plus facile à dire qu'agnostique. Je crois que c'est ça. Alors il commence par ça en disant « Je n'ai pas de preuves. Personne n'en a. Mais j'ai un certain nombre de raisons ou d'arguments qui me paraissent plus forts que ceux allant au sens contraire. En sens contraire. Disons que je suis un athée non dogmatique. Je ne prétends pas savoir que Dieu n'existe pas. Je crois qu'il n'existe pas. » C'est-à-dire qu'il fait une distinction essentielle, dès le départ, entre la croyance et le savoir. Et il dit, dans ce cas, objecte-t-on parfois, vous n'êtes pas un athée, vous êtes agnostique. Cela justifie quelques mots d'explication. L'agnostique et l'athée ont en effet en commun, c'est pourquoi on les confond souvent, de ne pas croire en Dieu. Mais l'athée va plus loin. Il croit que Dieu n'existe pas. Alors que lui, l'agnostique, il ne croit rien. Ni que Dieu existe, ni qu'il n'existe pas. C'est comme un athéisme négatif, ou par défaut. Il ne nie pas l'existence de Dieu, comme fait l'athée. Il laisse la question en suspens. Je dirais que dans ce cadre, l'athée est plus courageux que l'agnostique, qui laisse la question ouverte. Et il va ensuite, dans la page d'après, faire une distinction à partir de Kant, dans la critique de la raison pure, distinguer trois niveaux de créance, de croyance ou d'assentiment. Et Kant distingue d'abord l'opinion, qui a conscience d'être insuffisante, aussi bien subjectivement qu'objectivement. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une opinion, il sait que ce qu'il dit est insuffisant, soit par rapport à son propre savoir, par rapport à lui-même, subjectivement, soit par rapport à la vérité vraie de l'objet, il sait que c'est insuffisant, mais c'est une opinion. C'est-à-dire que s'il a déjà cette conscience que c'est insuffisant, on peut espérer ou penser que par un travail et par une étude, il pourra changer, modifier, compléter son opinion, parce qu'il va apprendre d'autres choses. Donc, l'opinion, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'ouvert. Celui qui a une opinion, normalement, n'est pas dogmatique. Il est ouvert à comprendre mieux et différemment. Ensuite, il y a la foi, qui n'est suffisante que subjectivement, mais non objectivement. Ça veut dire que quand je dis « j'ai la foi en Dieu », c'est-à-dire que subjectivement, c'est suffisant. Et je m'en contente. Mais objectivement, il n'y a strictement aucune raison de progresser, puisque de Dieu, de toute façon, on n'en sait rien. Et il met dans le mot « foi », il dit « c'est le même mot que la conviction ». j'ai la conviction que c'est pas il existe un savoir. Une conviction, on ne peut pas dire il existe une conviction que Dieu existe. Ça voudrait dire que la conviction est posée là, je pose la conviction quelque part. Alors que la conviction, vous voyez comment je le formule, j'ai la conviction. J'utilise le pronom personnel, c'est donc quelque chose d'éminemment subjectif. La foi est subjective. Et la foi est suffisante subjectivement, mais n'a strictement rien d'objectif. Et il y a enfin le savoir, qui est suffisant aussi bien subjectivement, quand je dis « je sais », c'est qu'il y a une démonstration qui me permet d'être satisfait, c'est suffisant subjectivement, aussi bien qu'objectivement. Donc, d'une certaine manière, il dit, sous réserve du vocabulaire, et il dit, s'agissant des athées, je préfère parler de conviction comme fait Kant plutôt que de foi, parce que la foi renvoie au religieux, alors que la conviction renvoie à, on va dire, à quelque chose qui n'est pas religieux nécessairement. Et il dit un peu plus loin, ou avant, ou après, je ne me rappelle plus exactement, quand il y a cette idée du savoir, puisque quand je dis je sais, c'est suffisant subjectivement aussi bien qu'objectivement, il dit celui qui dit je sais que Dieu existe est un imbécile. Parce qu'il n'y a aucune preuve que Dieu existe. Et s'il y avait des preuves suffisantes, on le saurait depuis longtemps. Et on serait tous croyants. Si lui, celui qui dit je sais que Dieu n'existe pas, est aussi un imbécile. Parce que ça voudrait dire qu'il y a des preuves de la non-existence de Dieu, et s'il y avait des preuves réelles, on le saurait depuis longtemps, et on serait tous athées. En fait, on ne sait ni que Dieu existe, ni que Dieu n'existe pas. Dieu n'est qu'un peut-être. Dieu est une hypothèse. En hébreu, ce peut-être se dit oulai. Et il est intéressant de noter que le mot Dieu en hébreu, elle, à l'Éternel, est de la même racine que ce mot oulai qui veut dire peut-être. Et donc c'est dans cette dimension du peut-être que nous allons travailler. Je ne dis pas que Dieu existe, je ne dis pas qu'il n'existe pas, je ne sais pas s'il existe, je ne sais pas s'il n'existe pas, je ne sais même pas ce que je crois, mais, dit-il, et c'est très beau cette formule, il dit que ce n'est pas une raison pour ne pas se prononcer. La tolérance n'exclut pas la réflexion. L'incertitude n'interdit pas le choix. Et il dit ici, il nous reste devant ce peut-être, il nous reste que deux choses à faire, ce qu'on va faire ensemble ce soir. Philosopher, d'abord, c'est-à-dire penser plus loin qu'on ne sait. On sait quelque chose, mais on va aller plus loin que ce savoir. La transcendance, au-delà du savoir que l'on a déjà, se donner cette liberté de penser plus loin que le savoir où nous sommes, c'est cela la philosophie. Et deuxièmement, on va faire de la métaphysique. C'est quoi la métaphysique par rapport à la philosophie qu'on vient de définir? C'est penser aussi loin qu'on peut. On va penser plus loin et on va penser aussi loin qu'on peut. C'est là où l'on rencontre la question de Dieu et la possibilité pour chacun d'essayer d'y répondre. Voilà donc le programme de ce soir. Et je reviendrai sur le début, tout début de son livre, où il y a ici quelque chose de méthodologique extrêmement bien pesé, en disant, on va parler de Dieu. Mais, qu'est-ce que c'est que Dieu? De quoi parle-t-on? C'est un mot, comme dit Léon Jabès, c'est un mot qui est vide. Chacun l'entend de manière différente. Et donc, parler de l'existence ou de la non-existence de Dieu, ça n'a strictement aucune pertinence si on ne sait pas du tout de quoi on parle. Donc, premièrement, Il va s'agir pour nous de définir ce qu'on entend par Dieu et savoir ensuite si nous avons simplement une opinion qui ne sera pas suffisante ni subjectivement ni objectivement, savoir si nous avons la foi ou une conviction qui sera suffisante que subjectivement, ou peut-être si nous avons un savoir, peut-être pas de Dieu, mais d'autre chose. Parce que ce qui est intéressant dans la méthode que nous allons utiliser, dans la tradition hébraïque, dans la tradition juive, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne sait pas si Dieu existe ou n'existe pas. On n'a aucune prétention sur ce savoir. Mais il y a dans le judaïsme quelque chose de plus fort et de plus important que Dieu et que le savoir de son existence ou de son inexistence, c'est la tradition et la transmission d'un texte de génération en génération. Être juif, c'est pas de croire en Dieu. Être juif, c'est accepter de philosopher et de faire de la métaphysique devant le texte et avec le texte, c'est-à-dire accepter un texte, et c'est là le sens de la révélation. On ne dit pas, la révélation, ce n'est pas un Dieu qui se présente, qui dit bonjour Dieu, c'est moi, je m'appelle Dieu. C'est la donation d'une loi, c'est la donation d'un texte et l'injonction de la lecture et de l'interprétation. Nous sommes condamné à lire et à interpréter. La question de Dieu est une question complètement annexe. À la limite, parfois je dis, je ne le dirai peut-être pas de cette forme, je dis, voilà, très bien, je vois qu'il y a déjà des gens qui suivent. Par provocation, mais ce n'est pas par provocation, ce n'est pas conviction, et pas savoir, et pas ce que vous voulez. Dieu, on s'en fout complètement. Mais vraiment, alors c'est vraiment le dernier du souci du judaïsme, parce que on peut être croyant et être complètement en dehors du judaïsme, et on peut être athée et être entièrement dans le judaïsme. Non seulement parce qu'il y a une pratique, mais peut-être parce qu'il y a autre chose que cette pratique, il y a une éthique tout à fait importante que je vais essayer de mettre en place. Il y a donc ce premier moment qui est celui du texte. Cela renvoie à ce que Lévinas dit de manière parfaite, que l'homme est un être pour le livre, un être pour le livre. C'est-à-dire que le livre n'est pas un objet, parmi les objets, un objet en plus avec le verre, la bouteille, le micro et le livre. Le livre fait partie de l'ontologie, c'est-à-dire de la définition la plus profonde de l'humain. Je suis homme veut dire que j'ai un rapport au livre, à la lecture et à l'interprétation. Et ce livre est tout à fait intéressant, que ce soit l'Ancien Testament et le Nouveau, je ne vous parlerai que de l'Ancien, le Nouveau je ne le maîtrise pas du tout. C'est que ce livre apparaît pour la première fois, et là je vous donne, au-delà de la bibliographie, c'est rien, j'ai oublié d'éteindre mon portable, je le fais souvent comme ça, pour dire que ceux qui ont oublié, ils peuvent l'éteindre par la suite. Voilà. Et donc, j'éteins mon portable, mais ça ne dérange pas d'ailleurs, si vous téléphonez pendant l'étude, ça ne dérange pas du tout. En Israël, chaque élève a trois portables. Un, c'est pour se téléphoner, c'est pour téléphoner, bonjour. L'autre, c'est pour se téléphoner pour être sûr qu'il est toujours là. Et le troisième, c'est toujours disponible au cas où la maman appelle. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, voilà. Donc, je fais un quand même, au cas où il y a ce soir, parce qu'on a besoin. Vous n'êtes pas perdu, personne ne dort encore. D'accord ? Donc, je résume pour ceux et celles qui viennent d'arriver. Être juif, c'est, ou être homme ici, parce que je ne fais pas de distinction, sans faire de l'inclusion. c'est que s'il y a un rapport au livre, et si j'ai donné un peu de bibliographie, le premier livre que j'ai donné en bibliographie, le livre de Constantine, je vais donner de la méthodologie. Quand on cherche un concept dans la tradition juive, on cherche à élucider un concept, on regarde où le mot apparaît pour la première fois. C'est ce qu'on appelle la règle de la première occurrence. Et dans le texte biblique, le mot livre en hébreu sefer apparaît pour la première fois au chapitre 5, verset 1 de la Genèse, dans la formule Zé sefer toldot Adam, voici le livre des engendrements de l'homme, ou voici le livre des engendrements de point l'homme. Il y a de très nombreuses implications de ce texte et de nombreux commentaires dans le Talmud. Je vais vous en donner juste une remarque extrêmement intéressante, liturgique. Quand on dit Zé sefer, c'est-à-dire voici le livre, c'est-à-dire qu'il faut le montrer, ce livre. C'est-à-dire que dans la tradition synagogale, quand vous rentrez dans une synagogue, c'est exactement comme en tant que protestant, c'est comme si exactement. La différence, c'est que derrière, il n'y a pas la croix, et qu'à la place de la croix, il y a une armoire. Qu'on appelle, il y a toujours une armoire, qu'on appelle l'Arche Sainte, Aron HaKodesh, et dans lequel il y a des rouleaux de la Torah écrits sur parchemin à la main, à l'encre et à la main, habillés, décorés, avec des couronnes, etc. Et il y a quelque chose d'absolument stupéfiant, c'est que dans les synagogues, pour aller ouvrir l'Arche Sainte, il y a une habitude qui se pratique en général, mais pas dans toutes les synagogues, parce que si vous ne voyez pas, vous ne dites pas que ça ne se fait pas, c'est qu'on va vendre le fait d'aller mériter ouvrir l'Arche Sainte. Il y a un rideau. Il y a des gens qui se battent, ils vont payer jusqu'à 1000, 10 000 euros pour ouvrir une armoire. Et vous savez que c'est complètement fou, parce que la même armoire, ils l'ont chez eux, c'est gratuit. Mais là, ils payent. Vous voyez ? Ils payent. Et c'est parce que les Juifs sont souvent dans le commerce comme ça, et c'est bon. Et d'ailleurs, très, pour eux, c'est important, parce que, et puis, il y a une confiance dans le commerce. J'ai un ami qui dit, quand je dis je vends, je vends. Quand je dis j'achète, j'achète. Quand je dis je donne, je dis. Virgule. Et donc, pour vous dire, donc il y a des gens qui achètent. Mais je me suis posé la question, mais c'est fou, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils payent? Et après, il y a d'autres qui payent. Pour autre, ça, il a payé, il a juste ouvert un mois, le rideau. Il y a un autre qui va payer pour ouvrir un mois. Il y a un qui va payer juste pour prendre le livre de l'armoire et le donner à un qui est à 50 cm. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent comprendre comment on subventionne des associations. Mais qu'est-ce qui est important dans l'histoire ? Le truc est absolument génial. C'est qu'il y a ici ce qu'on appelle une phénoménologie du livre, une manière dont le livre a d'apparaître, phénoménologie, et ce que le livre met en place, en mouvement, ce que le livre dynamise, avant même toute lecture, avant même que je lise le premier mot de la Bible, qui est Bereshit, au commencement, Genèse, en tête, le livre existe comme un objet. Et cet objet rappelle que l'homme n'est pas simplement un esprit, mais il est un corps. Et que ce corps est essentiel dans la construction même du sens. Or, qu'est-ce qui s'est passé quand la personne qui se trouve ici devant l'Arche Sainte ouvre le rideau et ensuite ouvre l'Arche Sainte? Quel est le mouvement qu'il a fait pour ouvrir l'armoire? Il a fait ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'il s'est ouvert. Il n'a pas ouvert le livre. Ouvrir le livre, c'est ça. Je peux l'ouvrir, regarder. Avec une main, j'ouvre le livre. Qu'est-ce que j'ai fait, là? J'ai ouvert le livre. Mais moi, dans cette ouverture du livre, je peux rester complètement fermé. Alors que si j'ouvre l'armoire, j'ouvre le livre. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose d'une respiration. Quand j'ouvre le livre, là, moi, je suis dans la respiration. Et il y a quelque chose ici du fait que je vais déjà beaucoup mieux. Parce que imaginez, quand vous avez des personnes qui ne vont pas bien, ils sont comme ça, on a un copain, il est comme ça. Quand quelqu'un est comme ça, il ne va pas dire, je lui demande comment va-t-il, il ne va pas dire c'est super, c'est génial. Mais celui qui va bien, quand on lui demande comment ça va, ouais. Voilà, ça, c'est bien. Quand on entre dans le livre, la première chose à vivre, c'est l'ouverture de soi qu'on va appeler la neshima, c'est-à-dire la respiration, qui va donner le mot neshama, qui va donner ce qu'on appelle l'âme, ou simplement ruach, qui veut dire le souffle. Mais ce livre, une fois qu'il est sorti, je le prends, je l'ouvre, je le prends et je le donne. Et la personne qui le reçoit immédiatement va la redonner à une personne et le livre va ensuite être transporté, promené dans la substance qui va l'embrasser. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le livre donne à ouvrir l'homme, mais que le livre donne à être donné. Il y a quelque chose ici, une transmission, c'est l'époque aujourd'hui, regardez le mouvement. Je prends le livre, je le donne, je le redonne, c'est le 15 de France. Vous voyez? Ça veut dire que, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce mouvement-là qui est hyper important, et plus important, même si j'ai rien retenu de ce qui a été lu, je sais que le livre, dans sa force, met en mouvement. Et il y a quelque chose d'essentiel que je viens de dire, c'est qu'il y a une transmission et qu'il y a une donation. Et là, je voudrais faire une première remarque grammaticale avant d'ouvrir le livre lui-même. Et ensuite, quand le livre arrive sur la table, il y a, on le déshabille parce qu'il a un manteau, il a des chemises, etc. Et ensuite, comme dans un mouvement d'haltérophilie, on ouvre le livre et on le lève et on va le montrer à l'assistant. Ça veut dire que le livre est quelque chose qui se voit. Ce rapport à la vue, j'en parlerai pas aujourd'hui, c'est pas le thème, mais c'est ce que j'ai voulu souligner, c'est la dimension physique du livre. Cette dimension de la donation est essentielle. Je prends le livre, je le donne, ce livre est redonné. Pourquoi? Parce qu'il y a deux remarques incontournables que nous devons savoir avant même d'entrer dans la pensée que nous allons développer ce soir, c'est que l'hébreu a une particularité grammaticale, deux particularités grammaticales essentielles. Premièrement, il n'y a pas de verbe être au présent de l'indicatif, c'est-à-dire que je ne peux pas dire je suis. Je peux dire j'étais, je peux dire je serai, mais je ne peux pas dire je suis. C'est très très intéressant par rapport à l'identité, c'est un sujet aussi important à développer peut-être tout à l'heure. Mais il y a une deuxième remarque grammaticale, c'est qu'en hébreu, il n'y a pas du tout de verbe avoir. À aucun temps. Le verbe avoir, comme j'ai, nous avons, nous avons, nous, le verbe avoir n'existe pas. Et donc se pose la question, mais s'il n'y a pas d'avoir, comment je peux être en rapport avec les choses dans la possession? Et la réponse, c'est qu'il y a un mot qui dit l'existence, cet objet existe, mais il est en relation avec moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possession, il n'y a pas d'avoir, mais on pose l'objet en relation avec un sujet. Comment je dis par exemple « j'ai un livre » On va dire « il existe un livre pour moi ».« Yesh » Ça veut dire « il existe ». Je ne peux pas dire « il y a », j'ai dit parce qu'il n'y a pas de verbe avoir. « Il existe ».« C'est faire un livre »« lit pour moi », en direction, voilà le sens. Or ce mot « yesh » qui veut dire « il existe » est extraordinaire, c'est un petit mot de deux lettres, « yud-shin », et l'hébreu a une particularité d'être une langue permutative. C'est-à-dire que les racines hébraïques sont formées de trois lettres, on parle de racines qui, mais les lettres ne sont pas statiques dans la racine, on peut permuter, inverser les lettres pour former d'autres racines et d'autres mots. Il y a une dynamique interne à la racine. À ce moment-là, le mot « yesh », qui veut dire « il existe », et on peut donc traduire aussi, d'une manière aussi, comme en anglais, c'est en anglais « yes », « yes », « il y a », c'est super. Et en israélien, « yes », ouais, super. Comme tout à l'heure, on lui demande comment ça va, « yes ». C'est que, inversé, ce mot « yesh » devient « shai ». Et « shai » chinigou, en hébreu, veut dire un cadeau. C'est-à-dire, l'existence, le « il existe », dans son mot lui-même, dit déjà quelque chose du cadeau. Ce qui est extrêmement intéressant, parce que ça dit quelque chose du présent. Et le présent dit quelque chose du temps. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir, alors qu'il n'y a pas de présent du verbe être, il y a un présent qui nous advient par l'absence du verbe avoir, qui devient le présent de la donation. Je fais un présent, c'est-à-dire je donne. Mais si l'être, yesh, il existe, est d'emblée pris dans une dimension et une dynamique de don, c'est qu'il y a quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Ce qui veut dire que l'être, l'ontologie hébraïque, n'est pas une ontologie d'un sujet solipsiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sujet qui existe seul. Je ne peux pas dire « je » tout seul. Comme dit Martin Buber, c'est « je » et « tu ». Mais que le « et » du « et » « tu » fait partie du sujet. C'est « je » c'est déjà la relation à l'autre. C'est pas que j'ajoute une relation à un sujet. C'est que le sujet est déjà en relation avec un autre sujet. C'est-à-dire que l'intersubjectivité fonde la subjectivité. Sinon, nous serions, je dirais, hors sujet. La dimension du sujet est déjà prise dans cette relation de deux. Cette dimension duelle de l'être est absolument essentielle. Elle se traduit en hébreu par le fait que chacun existe en relation avec un autre. Cet autre, c'est le « deux » par rapport au « un ». Ce « deux », c'est la lettre « bet » en hébreu, qui veut dire à la fois « la maison » et qui veut dire « le deux ». Et comme disent les commentaires, en particulier un maître chassidique qui s'appelle Rabbi Menachem Nachum de Tchernobyl, c'est un penseur assez atomique, il dit la chose suivante dans son livre Meor Benaïk. Quand il était dit, par exemple, dans le début de l'Exode, Ishu Beto Baou, un homme et sa maison est venu, ça veut dire un homme et son deuxième et son celui qui l'accompagne, ils sont venus. C'est un homme est toujours en relation avec un autre. C'est le sens du Beit de Bereshit. La Torah commence par ce deux, pour dire que nous sommes dans une ontologie duelle. Une fois que nous avons compris ces deux points de grammaire, on peut continuer. Je résume depuis le départ. La question d'aujourd'hui, c'est conviction, foi et conviction. Première remarque, c'est que foi et conviction, c'est le même mot dans notre lexique. Deuxièmement, on a fait la distinction avec Constantville entre la dimension de l'opinion, la dimension de la foi aux convictions et la dimension du savoir. On est reparti sur l'idée que si nous voulons parler de Dieu, il faut savoir de quoi on parle et donc interroger ce qu'est Dieu. Avant d'entrer dans cette interrogation, qui sera philosophique et métaphysique, dans la définition que j'en ai donnée, c'est-à-dire celle que j'ai reprise de Sponville, philosopher à penser plus loin que l'on pense d'habitude, métaphysique, au plus formidable de ce que l'on peut, j'interroge, j'ai donné deux remarques grammaticales, pas de verbe être au présent de l'indicatif et pas de verbe avoir en hébreu. Je pose la question maintenant, qui est Dieu? Et je vais répondre, je pourrais être un peu emphatique ce soir en disant, mesdames et messieurs, je vais vous dire qui est Dieu. Mais qui est Dieu dans le texte? Pas qui est Dieu dans la réalité objective du cosmos. Dans la tradition, dans ce que je reçois, dans l'enseignement c'est le Dieu tel qu'il nous est raconté. C'est le Dieu tel qu'il nous est transmis. Et ce Dieu apparaît, dans le texte biblique, sous différents noms. Le nom le plus célèbre, c'est le tétragramme Yod et Vavé. Quatre lettres, quatre consonnes imprononçables, et je rappelle, j'en profite pour rappeler que l'hébreu est une langue qui s'écrit de manière purement consonantique. Dans le texte, il n'y a que des consonnes. C'est le lecteur qui ajoute par son souffle, qui ajoute des voyelles. Et le tétragramme ne se prononce jamais. On le voit, mais on dit autre chose que ce qu'on a vu. Si on pouvait le lire, on pourrait le lire, comme certains le disent, Yahvé, parce que c'est écrit Yod, et Vav, et, selon une ponctuation AE, ça fait Yahvé. Je dis toujours, il y avait quoi, il y avait rien. Certains disent Jéhovah, c'est une aberration de ce reste grammatical, parce que de dire J, alors c'est marqué Yod, bon, mais c'est imprononçable. C'est déjà être dans la négation de la transcendance infinie du divin, de l'appeler Yahvé ou Jéhovah. Quand on le voit dans le fait qu'il est imprononçable fait qu'il produit une autre parole. L'imprononçabilité du nom de Dieu est producteur d'un autre nom. Et je ne dis pas Yahvé, je dis Adonai, qui veut dire mon Seigneur, qui veut dire Monsieur, qui veut dire mon maître. Et en plus, c'est un pluriel. Adonai, c'est pas un pluriel, c'est un singulier, c'est mon maître. D'accord ? C'est un pluriel, sinon c'est Adonai. C'est un messager. Il y a un pluriel comme on va le retrouver dans le livre. Le tétragramme, c'est le nom le plus célèbre, et une des interprétations, toute la Kabbale s'est d'en donner 1 million d'interprétations, mais une des interprétations qui reste grammaticale, c'est de dire qu'avec les 3 lettres, avec la répétition du E, ça fait 4, on peut écrire Ove, présent, Aya, il était, Ye est, il sera. C'est-à-dire que le nom de Dieu, c'est une interprétation du Evenezra, c'est que le nom de Dieu, c'est de dire la possibilité du temps, du présent, du passé et du futur. Certains penseurs contemporains comme Henri Atlan traduisent le tétragramme comme l'être du temps. C'est-à-dire la possibilité de ce déploiement à l'intérieur du temps. Je pense que c'est une interprétation qui est certainement juste, mais qui est éminemment, vous voyez qu'éminemment, c'est un petit peu éminemment réductrice. Parce que le tétragramme, bien évidemment, c'est beaucoup plus riche que simplement de dire. C'est aussi cela, je dirais, c'est le pshat, c'est-à-dire le sens littéral, grammatical, de ce nom de Dieu imprononçable. Il va y avoir un autre nom, beaucoup plus connu, ou beaucoup moins connu, et on va commencer à le lire ensemble dans le texte biblique. Ça se trouve dans le chapitre 3 du livre de l'Exode, et j'aurais dû dire normalement de venir. J'ai essayé de poser le texte, le micro. Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Pas aussi bien que si j'avais le micro.
L'enregistrement.
Ah, c'est pour l'enregistrement, je parle là. Et le problème, c'est à chaque fois que j'ai le micro, j'ai l'impression que c'est Johnny. Non?
Bon. Il est en Suisse.
Justement, c'est pas très loin. Alors regarde, on y va. C'est chapitre, à moins que je mette ça devant. Attendez. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
C'est bien, là on n'entend pas.
Et voilà,
mais... Oui, mais pour moi c'est hyper. Je vais essayer. Hein. C'est Lévinas qui ne serait pas d'accord parce que ça cache le visage. Hein.
Oh, non, je vous dis, la vie sera pas d'accord, je vais avoir les problèmes après, en rêve, j'ai remarqué rien de ce qui se passe. Alors, regardez, dans le chapitre 3 de la Genèse, de l'Exode, il y a ce célèbre chapitre de la Révélation au buisson ardent. Et là, je lis le texte. C'est le début du chapitre 3, où Moshe à Yahweh et son Yitro, Moïse était en train de faire paître le troupeau de son beau-père, Yitro, il avance dans le désert, et là, il voit un ange ou un envoyé du tétragramme dans une flamme de feu à l'intérieur d'un buisson, il voit, et voici que le buisson brûle dans le feu, et que le buisson n'est pas consommé, n'est pas consumé. Vaïomer Moshe. Et Moïse a une phrase ici qui est peut-être une des phrases les plus importantes de la Bible. Il dit Asurana ve'ere et amare agadolaze madua l'oliva asen. Il dit c'est pas seulement il le fait, il le dit. Je vais me détourner pour voir, et je vais voir, ce grand prodige, pourquoi le buisson n'est pas l'oliva, pourquoi le buisson n'est pas consommé. Ça veut dire que l'attitude de Moïse, c'est bien qu'il ait l'habitude d'être dans le désert, de cheminer dans des chemins qui sont tracés ou pas tracés, mais il avance et il suit son troupeau. Il laisse son troupeau, il est après son troupeau. Mais tout à coup, au lieu de continuer à suivre l'habitude, son chemin, il voit quelque chose sur le côté qui l'interroge. Et au lieu de continuer, il dit « Je vais me détourner pour voir. » Et là, il pose une question formidable. « Ma voix, pourquoi ? Pourquoi le buisson n'est-il pas consommé ?» Cette phrase est extraordinaire. Moïse est l'homme qui est capable de poser la question du pourquoi. Et je sais que certaines personnes qui sont ici m'ont déjà lu et ils savent plus ce que je dis, c'est simplement je révise avec vous. C'est que je cite à ce moment-là très précisément ce texte de Primo Levi qui arrive à Auschwitz et c'est l'hiver, il a soif, il n'y a pas d'eau dans la baraque et il sort pour prendre un glaçon. Et là, il y a un Allemand qui lui dit « Nein !» Primo Levi lui dit « Warum ? Pourquoi ?» Et l'Allemand lui répond « Hier ist kein Warum ?» Ici, il n'y a pas de pourquoi. Et je crois que, en mettant en perspective le texte de Moïse et sa capacité à dire « Pourquoi ?» et ce texte de Primo Levi qui dit « Le lieu du mal » comme étant le lieu de l'impossibilité du pourquoi, on dit quelque chose d'essentiel. Ce mot madoua, qui veut dire pourquoi, a, par le jeu de la permutation des lettres dont j'ai parlé tout à l'heure, va écrire le mot omed, ou le mot amoud, qui veut dire se tenir debout. C'est-à-dire que l'homme a la possibilité de se tenir debout s'il est capable de poser la question du pourquoi. Et vous allez voir que ce n'est pas par hasard qu'il y a ce pourquoi et cette capacité de se tenir debout. Mais se tenir debout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en équilibre. Or, l'équilibre vient d'où? De la capacité à entendre. Comme vous le savez, l'organe de l'équilibre se trouve dans l'oreille interne. Et l'hébreu, qui ne connaît pas du tout l'anatomie de l'homme, a priori, dit pourtant, en hébreu, que le mot équilibre et le mot oreille, c'est le même mot. Ozen, l'oreille. Izun, l'équilibre. C'est parce que l'homme est capable d'entendre qu'il est capable de se tenir debout. Se tenir debout en posant la question du pourquoi. Et qu'est-ce que Moïse va entendre ici tout de suite après? Il entend, il dit j'ai c'est tellement important qu'il a dit je vais me détourner pour voir et qu'il pose la question du pourquoi que le texte dit Vayar Adonai Kisar Lirot. Le tétragramme dit qu'il s'est détourné pour voir. À ce moment-là, Vayikra Elav Elohim. Elohim l'appelle. Et une toque a sonné du milieu du buisson, Vayomer, et il lui dit, et comme c'est une révélation, je le fais avec la voix caverneuse de la révélation, Moshe, Moshe, Moïse, Moïse, et à ce moment-là, la phrase la plus célèbre, Vayomer, Ineni, il dit, me voici. Et alors là, on a une question parce que, de la part de Dieu, qui est quand même la transcendance infinie qui se révèle pour la première fois à Moïse, on attendrait de sa part qu'il nous parle un petit peu de métaphysique. Il lui dit, Alti krav à l'homme, n'approche pas d'ici, shal na lecha me al raglecha, enlève les chaussures de tes pieds, qui a makom asherata omed, car l'endroit sur lequel tu te tiens debout, admat kodesh ou, c'est une terre de sainteté. Et tous les commentateurs se posent la question de pourquoi ils lui demandent d'enlever ses chaussures. Je ne sais pas si vous voyez, imaginez que par exemple vous êtes un peu prophète. Vous faites de la mystique. Il y a des gens qui font la méditation, la mystique. Et tout à coup, Dieu va leur apparaître. Et alors on se prépare à cette révélation. On s'imagine qu'on va voir des anges, on va entendre le froufrou, des ailes, des anges. Non. Enlève tes chaussures. Imaginez Moïse a enlevé ses chaussures. Le résultat, c'est qu'il a pété ses pompes. Là, si vous voyez, c'est un jeu de mots. Une fois qu'il a enlevé ses chaussures, il était à côté de ses pompes. Alors c'est vrai que ça fait rire. Mais ça veut dire que là, on a quelque chose d'étonnant. C'est qu'au moment où on voudrait être au plus haut, on est dans quelque chose de très terre à terre, pour le dire précisément. Or, les maîtres du Talmud posent la question, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de chaussures? Il dit, mais c'est très simple. C'est que le mot chaussure, en hébreu, il a une autre signification. Et là, je vous dévoile un secret de l'hébreu et un secret de la Bible qui va vous servir toute la vie. C'est que l'hébreu est une langue amphibologique. Ah, j'ai fait un bon. Amphibologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais le dire, dans les mots de celui qui nous l'offre aujourd'hui, deux textes essentiels, dont deuxième référence bibliographique, un livre de Roland Barthes, qui s'appelle Roland Barthes. Le livre s'appelle Roland Barthes, écrit par Roland Barthes. Donc c'est Roland Barthes par Roland Barthes, aux éditions du Seuil. Et Barthes raconte Barthes en parlant à la troisième personne. Certaines personnes ont des problèmes. Donc lui, il a un problème. Donc quand il parle de RD, c'est les initiales, c'est Roland Barthes. Il parle de lui. Page 72 de ce livre, il y a la définition du mot amphibologie au pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire une amphibologie? C'est très simple. C'est que un mot a un sens en fonction du contexte. Mais un mot a toujours plusieurs sens. Ce qu'on appelle la polysémie. Mais l'amphibologie n'est pas la polysémie, c'est l'ordre de polysémie. Qu'est-ce que c'est que polysémie? C'est le fait qu'un même mot a plusieurs sens. Par exemple, je prends le mot volume.
Volume. J'augmente le volume.
C'est un volume de son. Si je vais dans une bibliothèque et je dis je suis ressorti avec deux volumes, on comprend que c'est deux tomes. Si je suis dans un laboratoire de chimie et je mélange quelques volumes, on comprend que ce sont des volumes chimiques. Ça veut dire que le mot volume a plusieurs sens, mais le contexte précise le sens et réduit les plusieurs sens à un sens. Ce qu'on appelle il est réduit à l'indécence. L'indécence du sens, dit un des grands maîtres du Talmud moderne qui s'appelle Rabbi Yaakov Lacan, dit que. Non, c'est vrai. Ah, mais je sais pas, peut-être on peut faire du monde dans une. Non, pas dans une. Ça dérange pas de dire derrière moi, ça va pas. Je suis un peu ému, c'est la première fois que j'ai une croix si grande dans le dos. Non, mais c'est vrai. Moi, ça me trouble un peu. Bon. J'ai quand même écrit la Bible de Bourgif, alors là, il faudra ajouter un deuxième tome, le Nouveau Testament de l'humour. Je vais essayer. Hein. En tout cas, très sérieusement, qu'est-ce que je disais avant, on dirait bien comme Lacan, c'est que l'un des sens, vous voyez bien, bon, il y a un jeu de mots ici. Et voici ce que dit Barthes. Le mot intelligence peut désigner une faculté d'intellection ou une complicité. Quand je dis intelligence, cette personne a de l'intelligence, c'est un processus, il est intelligent. Si je dis Mata Hari est en intelligence avec l'ennemi, on comprend que c'est une complicité. Il y a donc deux sens. En général, le contexte oblige à choisir l'un des deux sens et à oublier l'autre. Ça, c'est en général. Mais lui Hervé, c'est-à-dire Roland Barthes, chaque fois qu'il rencontre l'un de ces mots doubles, Hervé, au contraire, garde au mot ses deux sens, comme si l'un d'eux clignait de l'œil à l'autre, et que le sens du mot fût dans ce clin d'œil qui fait qu'un même mot, dans une même phrase, veut dire en même temps deux choses différentes. Et qu'on jouit sémantiquement de l'un par l'autre. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose de la jouissance du sens qui fait qu'on entend en même temps deux sens. Et l'hébreu est une langue de jouissance parce que chaque mot en hébreu a toujours deux sens qu'on entend en même temps. Un autre grand maître de la pensée contemporaine qui a développé cette idée, c'est Freud. Dans son livre « Le mot d'esprit et son rapport avec l'inconscient », il appelle ça un rite. Quand il dit deux juifs sont devant une maison de bain et l'un dit à l'autre assis un bain et l'autre lui répond pourquoi il n'y en a aucun, ça nous fait rire. Même quelques dizaines d'années plus tard, pourquoi? Parce que prendre un bain, pourquoi il n'y en a aucun? Prendre un bain a deux sens. Je prends un bain, je prends un bain. C'est-à-dire que ce que Freud découvre, c'est que l'économie psychique, puisque j'utilise un même mot pour dire deux choses, j'ai fait une économie. Vous voyez qu'on est en plein quand je donne, je donne. C'est-à-dire que l'économie psychique, qui est une jouissance, vient de cette amphibologie. Un des plus grands maîtres du judaïsme, peut-être le plus grand, mais un des peut-être le plus grand, Maïmonide, consacre le début de son livre « Des égarés » à travailler sur l'amphibologie en expliquant très clairement comme dans la Bible c'est marqué la main de Dieu, l'œil de Dieu, et qu'on sait que Dieu n'a ni main ni œil, c'est que main et œil, ça veut dire autre chose que ce qui est marqué. Et donc que l'hébreu biblique est nécessairement amphibologique. Un texte et un auteur. Donc là j'ai cité Freud, j'ai cité Mandeville, et je vais citer un auteur. C'est Barthes qui est tombé avec mes lunettes. Je vais citer un auteur qui est pour moi très important, que vous connaissez tous, qui s'appelle Éric de Luca. Et Éric de Luca a cette particularité, c'est qu'il est justement lui athée, c'est comme cela qu'il se définit, mais tous les matins, il lit la Bible pendant une heure. Et tous les matins, il étudie un verset, il va au travail avec ce verset, et il dit que c'est pour lui comme un noyau d'olive qui mâchonne toute la journée, il appelle ça, il a écrit un livre qui s'appelle Noyau d'olive. Et il est en train de retraduire entièrement tout le texte biblique, c'est absolument fabuleux, avec beaucoup de justesse. Il reprend le texte en hébreu, parce que le texte de la Bible est écrit en hébreu. Enfin, pas tout le monde le sait, mais ça me rappelle, mais j'étais hier dans le métro, j'étais en train de préparer le cours, j'ai le texte ici, de ma Bible, et je lis, et une dame à côté de moi dit, qu'est-ce que c'est? Je dis, c'est la Bible. Elle dit, et c'est en quelle langue? Je dis, c'est en hébreu. Je dis, quoi? Ils l'ont même traduit en hébreu. Ah oui, ça vous fait rire. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Parce qu'il y a plein de préjugés. Il y a plein de préjugés. On ne vit que de préjugés. Je fais des sondages. Pourquoi avancer, travailler? Je fais des sondages. Par exemple, je demande quel est le fruit que Adam a reçu d'Ève dans la Genèse. 99% des réponses, c'est la pomme. Or, dans le texte biblique, il n'y a jamais été question de la pomme. Quand je dis quelle est la feuille que Adam a mise sur lui pour se cacher de sa nudité, tout le monde me dit la feuille de vigne. Dans le texte biblique, c'est marqué la feuille de figuier. C'est-à-dire que j'appelle cela de manière générique le complexe de la pomme. C'est le complexe de la pomme. D'où ça vient? Ça vient de l'amphibologie. Car Saint Jérôme, lorsqu'il a traduit la Bible en latin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a traduit bonum, le bien, malum, le mal. Or, en latin, malum veut dire le mal et la pomme. Et donc, c'est devenu l'arbre du bien et du pommier, d'où la pomme. c'est extraordinaire comment le double sens d'un mot en une langue que les gens ne maîtrisent pas transforme la conscience humaine au point que, si vous regardez toute l'iconographie de la peinture biblique, Adam et Ève sont toujours autour d'un pommier. Et cela est issu simplement d'un jeu de mots de l'amphibologie. Il y a plein de préjugés dans le texte biblique, mais je vais y venir après. Je suis dans Moïse, vous vous rappelez, et j'ai ouvert Bach pour l'amphibologie. Et Élie de Luca, dans son livre qui s'appelle Alzaïa, qui veut dire en latin, qui veut dire en italien, la corde qui permet de tirer le bateau qui est au large ou le bateau à contre-courant sur un fleuve. Et là, Pascal en fait, il y a un chapitre qui s'appelle Corde, qui est un véritable petit bijou qui dit la chose. Revenez à la place forte, vous captifs de l'espérance. Est-il écrit dans Zacharie 9:12. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On prend Zacharie 9:12, c'est-à-dire pour nous, en hébreu, Zecharia, chapitre 9, verset 12, et on dit, ce qui a été traduit ici, revenez à la place forte, vous, captifs de l'espérance. En hébreu, chapitre 12, Shubu, levi tzaron, Ashire, atikva, et je continue le verset, Gamayon, magid mishne, ashira. Si je traduis littéralement, comme il a été proposé ici, Shubu, levi tzaron, c'est-à-dire revenez à la forteresse. Ashire, atikva, ça veut bien dire, Achille, c'est un prisonnier, Tikva, c'est bien l'espérance. C'est bien prisonnier d'espérance. Mais, nous dit de Lucas, et nous le vérifions immédiatement en ouvrant le dictionnaire, et Ben Sochan, par exemple, le dictionnaire hébreu-français ou hébreu-hébreu, c'est que le premier sens de Tikva, c'est pas l'espérance, c'est la corde. Par exemple, tout à Tikva, Tikva, ça veut dire la corde. C'est le premier sens. À ce moment-là, ce verset, qui est comme une annonce de salut, il dit, je lis, le mot hébraïque espérance est tikva, qui veut dire aussi corde. Revenez à la place forte, vous, captifs de la corde. Ce qui est d'ailleurs tout à fait logique, parce que si vous avez des captifs qui sont avec des cordes enchaînées, ben ils sont captifs de la corde. C'est le chat, le sens littéral. Assurez à tikva, vous qui êtes captifs, enchaîné. Mais, il dit, revenez à la place forte, vous captivez la corde, est une traduction possible du verset qui évoquerait ainsi l'image d'une libération de détenus délivrés matériellement de leur lien. L'hébreu parle toujours des choses concrètes. Ce n'est qu'à force d'utiliser une corde dans le langage qu'elle devient aussi une espérance. Il est beau que l'espérance et l'âme d'une corde. Elle tire, attache, fait des nœuds, peut se rompre. Lorsque Rachel pleure ses fils à Rama et refuse toute consolation, dans Jérémie 31:15, Dieu lui parle en ces termes, retiens ta voix de pleurer et tes yeux de verser des larmes, car ton action aura sa récompense, dit Dieu, et on reviendra du pays de l'ennemi, il y a, et c'est marqué à ce moment-là, tikva, il y a une corde pour ta descendance, dit Dieu, il y a une espérance, corde, et tes fils reviendront à leur frontière. Une longue corde accompagne les exilés en exil, et une corde les ramènera chez eux, se rend bobinant sans se casser. Comme Virgile, écrit dans l'Énéide 11:309, spes sibi quisque, que chacun soit sa propre espérance. Il exclut les cordes et les secours. C'est une recommandation qui convient à l'alpiniste engagé dans une course en solitaire. Mais le mot tikva contient au contraire l'idée d'être lié à quelqu'un ou à quelque chose qui ne laisse pas seul. L'espérance ne montre pas toujours sa fibre de chanvre, retors, résistant. Mais il est beau de savoir qu'elle a cette ténacité d'origine. J'aime la langue qui me l'a enseignée. Voilà, texte absolument magnifique, qui est ce que j'appelle un paradigme, c'est-à-dire un exemple exemplaire du fonctionnement de la langue hébraïque, où chaque mot a toujours au moins deux sens, de les entendre en même temps produit la jouissance du sens, c'est-à-dire l'antymologie dont nous avons parlé. Or, si je reprends le mot « na'al », qui veut dire la chaussure, c'est là où on en était avant « jour bas », c'est que le mot « na'al » est un verbe qui veut dire à la fois « chaussure », mais qui veut dire aussi « fermer ». Par exemple, dans la prière de Yom Kippour, la fin de la prière s'appelle « ne'ila », c'est le moment où on ferme les portes. La chaussure s'appelle Na'al parce que, justement, elle est fermée. Il y a des lacets pour la fermer. Quand il lui dit « enlève tes chaussures », ça veut dire « enlève ta fermeture », ça veut dire « ouvre-toi », ça veut dire « sors de tout ce qui pourrait t'enfermer pour devenir un être libre ». À ce moment-là, tu vas pouvoir entendre réellement la parole de la révélation. Ça veut dire que les êtres que nous sommes, on a souvent deux modalités d'être. Soit on est enfermé comme dans un cercle, qu'on appelle un igoul. Ce igoul, c'est la dimension de la nature. Notre être naturel. On est tous plus ou moins naturels, même quand on est déjà dans la culture. Une culture qui devient naturelle, devient nature. Cette dimension circulaire, ça donne un mot en hébreu qui est l'anneau, tabac, comme la vague. Et les maîtres ont remarqué que le mot tabaak vient du mot teva, qui veut dire la nature. C'est-à-dire que quand on est dans la nature, on est dans la dimension du cercle. Mais cette dimension du cercle s'appelle en hébreu nefesh. C'est le plus bas niveau de la personne. Mais il y a une autre manière d'être. C'est de fracturer le cercle et être dans le yachar, dans le yosher, dans la ligne droite. C'est là où on accède à sa roua, à son souffle, à sa liberté, c'est-à-dire la possibilité de s'inventer. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ont reçu la Torah, qu'est-ce qu'ils ont fait immédiatement? Un veau d'or. Comment ça se dit en hébreu? Egel Azahav. Or, le mot Egel, qui veut dire veau, veut dire en fait, cercle. C'est-à-dire qu'ils sont retournés dans la dimension de l'enfermement et du cercle. Ce que demande Dieu ici à Moïse, enlève tes chaussures, sois capable de dénouer les nœuds qui t'enferment. Parce que sinon, tu ne pourras pas te tenir debout. Et il y a un commentaire dans le traité Kouli, page 24, qui dit la chose suivante. À Maravilla, quel âge a Moïse au moment où il est au buisson ardent? Il a 80 ans. Et qu'est-ce que lui demande Dieu? Il lui dit, enlève tes chaussures. Et le texte dit « Akamayele » jusqu'à quand une personne est considérée comme ayant la fraîcheur de l'enfance. Le Talmud répond « jusqu'au moment où il est capable de se tenir debout et d'enlever ses chaussures ». Ça veut dire que être jeune, c'est être capable de se tenir sur un pied et d'enlever ses chaussures. Vous voyez? C'est-à-dire que quand il lui dit « enlève tes chaussures », il a voulu savoir si le Moïse de 80 ans avait suffisamment de jeunesse dans son corps pour enlever ses chaussures. Il a vu enlever ses chaussures comme ça. Donc il a dit « bon, cet homme est jeune ». Mais en plus, non seulement il est capable de se tenir sur un pied, mais en même temps, il est capable de dénouer ses chaussures. Ça veut dire qu'il n'est pas enfermé dans des préjugés. Il est capable de changer. Il est capable d'être différent. À ce moment-là, il lui a dit, voilà, va sauver le peuple qui est enfermé en Égypte. Seul un homme libre peut libérer les autres. Tu vas montrer que tu es libre, tu vas montrer que tu as de l'équilibre, c'est intéressant, libre, équilibre, et que tu es capable de dénouer tes chaussures. C'est très intéressant de regarder la manière dont les gens ont des chaussures. Avec lacets, sans lacets, je ne regarde pas. Lacets ouverts, pas lacets ouverts. Double nœud ou pas, double nœud. Le mec très très enfermé. Et vous avez remarqué, il y en a le soir, au lieu d'ouvrir les nœuds, ils enlèvent la chaussure comme ça, et après, hop, tac, la fermeture. Ça, c'est des spécialistes mosaïques, vous voyez. Mais en fait, normalement, on devrait, avant de dormir, faire un exercice. Je vous demande de le faire tous les soirs. Vous arrivez chez vous, donc déjà vous achetez des chaussures, c'est si c'est des bottes qui arrivent jusque-là, et tout ça, on les enlève, c'est ici. Mais vous mettez, donc vous arrivez, vous enlevez vos bottes, vous remettez les chaussures à lacet, et après vous faites l'exercice. D'accord? Ce qui est important, mais c'est pourquoi c'est très important? Parce que cette idée, tout à fait contraire, d'être capable de comprendre qu'il y a un nœud, d'être capable de l'ouvrir, ouvre non seulement la chaussure, na'al, qui veut dire ce qui est fermé, mais va ouvrir tout ce qui est enfermé dans l'esprit. Et à ce moment-là, il dit à Moïse, va sauver le peuple, et tu vas leur dire, Dieu m'a parlé, et je viens vous sauver. Seulement le peuple d'Israël, si vous voyez, il y a quelqu'un qui viendrait, dit, je suis le Messie, par exemple. Ça peut arriver, ça. Le peuple d'Israël est toujours un peu inquiet dans ce genre de déclaration. Il dit, mais il s'appelle comment celui qui t'envoie? Alors, le texte dit, tu leur diras, je m'appelle Eyé, Asher Eyé. J'appelle, alors là on est en plein complexe de la forme, parce que à partir du grec, puis à partir du latin, et dans toutes les traductions françaises, il est traduit « je suis celui qui suis ». Or, si le traducteur avait été là au début de la conférence, il aurait su qu'il n'y a pas de verbe être au présent de l'indicatif en hébreu, alors comment il peut dire « je suis » alors que le mot n'existe pas dans le lexique? Donc, nous sommes ici devant une aberration de traduction. Il est impossible en hébreu que Dieu dise « je suis » puisque le verbe n'existe pas. Or, qu'est-ce qui est marqué dans le texte? Ayez, Asher Ayez. Je serai ce que je serai. C'est un verbe au futur. Dieu, quand il se manifeste pour la première fois à l'homme auquel il s'adresse pour parler de liberté, c'est de dire qu'il y a un futur. Intégrer le divin en soi, c'est intégrer le fait qu'il existe un futur. S'il y a des médecins dans la salle, et je sais qu'il y en a, les médecins sont souvent confrontés à une maladie très grave, avec différents niveaux, qui est la dépression. Or, le déprimé, ce qu'il n'a plus, c'est l'anticipation. C'est-à-dire, pour lui, il est tellement enfermé dans sa douleur présente, qui est tellement lourde, qui le plombe, qui le tire vers le bas, vers souvent des idées suicidaires, c'est qu'il ne peut pas dire « demain ». Quand je lui dis « demain », on lui dit « demain », il ne comprend même pas qu'est-ce que ça veut dire. L'idée d'un futur n'est plus à une idée qui appartient à celui qui n'est pas dans, qui n'est pas dans la vie. Or, intégrer le divin en soi pour la liberté, et la première liberté, c'est peut-être déjà cela, c'est d'être non pas enfermé dans son présent, non pas être dans son passé. Et quand on dit quelque chose de très joli, dans un autre texte, il dit, c'est quoi une personne âgée? C'est quoi quelqu'un qui est vieux? Il dit, c'est pas quelqu'un qui a 80 ans, c'est pas quelqu'un qui a 90 ans, qui a 120 ans, qui a 1000 ans, non. Une personne qui est vieille, c'est une personne qui commence à vous raconter son passé. Je me rappelle, en 1670, etc., et je me rappelle l'école, etc. Quand, au lieu de dire « demain, je ferai, demain, j'ai un projet, l'année prochaine », c'est-à-dire que quand Rabbi Nachman dit « il assure l'idiote Jacquel, il est interdit d'être vieux », c'est-à-dire qu'il est interdit de se laisser vieillir dans le sens et dans sa manière d'être, parce qu'on a toujours à construire, toujours à s'inventer. Et souvent on est seul ou on a ce sentiment de solitude et de désespoir, mais il faut justement sortir de cette désespérance, ce qu'on appelle au niveau de la Kabbale, on appelle ça le Keter, Itororut, c'est-à-dire le réveil. Et on est là, et même si on n'a rien, on dit « yes, ouais, super, super bon, c'est pas mais c'est super ». Et j'ai compris, quelques 30 ans plus tard, ou 40 ans plus tard, un geste d'un très grand maître, un des plus grands maîtres du XXe siècle, peut-être le plus grand du XXe siècle, qui s'appelle le Rabbi de Lubavitch, et je l'ai toujours vu, je l'ai pas entendu parler des heures, il était capable de parler 10 heures d'affilée, mais il avait des fidèles, par centaines de milliers qui venaient le voir, et qui commençait à chanter. Et il faisait qu'un seul geste. Il faisait comme ça. Et quand il voyait que le son s'affaiblissait, il faisait comme ça. Et 100 000 personnes reprenaient le son de manière comme une sorte de... une sorte d'ouragan. Non pas destruction, mais ouragan d'espoir, de construction. Et je crois que ce geste-là, il est important.
Comment le matin on se réveille? Faut pas nous dire. Le matin on se réveille, la première chose qu'on fait, c'est d'abord qu'on dit merci. Parce que ça, c'est une chose géniale. Savoir qu'on s'est réveillé, c'est-à-dire qu'on est vivant. Alors imaginez, le premier mot que vous dites en vous levant, c'est merci. En hébreu, il y a une petite formule, on dit modé ani le fanecha, je te remercie devant toi de m'avoir restitué mon âme. C'est génial un nouveau jour. Mais il faut que ce soit un nouveau jour. Parce que si le jour c'est le même que la veille, eh bien c'est pas un nouveau jour, c'est la répétition de la veille. Et quand je dis merci pour le jour, ça veut dire merci de me permettre aujourd'hui de faire quelque chose d'inédit que j'ai jamais fait. Et à ce moment-là, on regarde le lac, ici, on voit les mouettes, on dit bonjour les mouettes, yes, super. Voilà. Faites-le demain, vous allez voir, vous avez un tenant des primes, vous êtes peut-être, même si je ne sais pas pourquoi, yes, il y a. Il y a, c'est-à-dire, ce cadeau de l'être, ce réveil, qui fait que, ayez, je serai. Quand depuis plus de 1000 ans, on a une Bible qui traduit que Dieu a dit je suis, vous imaginez la distorsion théologique, la distorsion psychologique, comment Dieu en moi qui dit je suis, peut me porter et me donner envie d'avoir à être alors que lui se pose comme étant statique. Il est le Dieu du je suis et beaucoup plus parménidien que le Dieu du je serai qui est héraclitéen. Héraclite dit tout est devenu. Parménide dit il faut dire que l'être et le non-être n'est pas. La Bible propose un Dieu qui est en devenir permanent. Mais puisque ce Dieu-là, on ne sait pas s'il existe, sauf de le dire, je sais qu'il existe, et être imbécile selon la formule. Mais dans le texte, ce n'est pas Dieu qui existe, le Dieu dont on parle, c'est le Dieu auquel on accède par la lecture, qu'on intègre dans la lecture. Donc le « ayez » que je lis, quand je dis « ayez » et je lis « ayez », qui est-ce qu'a lu « ayez » ? C'est pas Dieu. C'est moi. Dans ce texte, j'ai dit « je serai ». Et en disant « je serai », je m'inclus et j'intègre cette dimension de l'être en devenir. Alors Moïse lui dit « mais qu'est-ce que ça veut dire « je serai ce que je serai » ? » Alors il y a différentes interprétations. Il y en a une qui se traduit en coupant en trois « ayez ». Je serai. Et le mot Asher, il le lit Osher, qui veut dire bonheur. Je serai, bonheur, je serai. Ça veut dire d'être capable de dire je serai, c'est un véritable bonheur. Et je serai à partir de ce bonheur. Mais Rashi, un autre commentaire, vient dire, tu diras aux enfants d'Israël que je serai avec eux dans le malheur, maintenant, comme ils sont en malheur, et plus tard, quand ils seront encore dans le malheur, je serai encore avec eux. Alors Moïse, texte dans Rashi, il m'a dit, excuse-moi Dieu, mais c'est peut-être pas très marqué. Parce que si tu es en train de leur dire que tu les délivres maintenant pour leur dire qu'ils vont être dans la problématique plus tard, c'est pas encourageant, dis ta raison. Co, Thomas l'Ebné Israël, ainsi tu leur diras, ayez, tu diras simplement je serai. Alors dis-moi, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je serai plus tard avec eux quand ils auront des problèmes. Je viens de te dire que ça ne se vend pas. Il dit, t'as raison. Alors dis-leur. Enfin, dis-leur pas, dis-leur, hein, dis-leur. Non, si après vous croyez que. Bon. Alors, on en était où? Donc, tu leur diras, voilà, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté, tu leur diras, Zéchemi, voici mon nom, le Olam. Et le mot le Olam est marqué pas entièrement, on le lit, le Olam, c'est-à-dire pour qu'il soit caché. Il s'agit du tétragramme, et voici mon souvenir, c'est-à-dire qu'il donne à la fois le nom tétragramme qui est imprononçable et l'autre nom qui est le Yod et le Adonai dont je parle. Voilà le premier indice dans lequel nous entrons ce soir. Quand nous posons la question foi et conviction, certes, je peux avoir la foi, mais si j'ai la foi en Dieu, qu'est-ce qui signifie ce Dieu ? Première réponse, le Dieu qui se manifeste à Moïse, c'est un Dieu du futur, qui a la possibilité d'engager l'homme dans un projet. D'où la célèbre phrase de Rabbi Nachman, « En tikaron ela alma beate », il n'y a de souvenir que le mon futur, que j'ai retraduit en français, « Souviens-toi de ton futur ». J'ajouterai peut-être aujourd'hui, « Protège ton futur ». La notion de futur, la notion de « je serai », et la première notion de Dieu. Un croyant, c'est quelqu'un qui sait que le futur existe, et donc il n'est pas dans la désespérance, parce qu'il sait qu'il y a toujours un demain, toujours un demain. Le deuxième mot que nous allons travailler ce soir, c'est le mot Elohim. Elohim, vous l'avez entendu, c'est un pluriel, c'est la manière dont Dieu se présente quand il dit à la création, Bereshit, commencement, premièrement, en tête, quelles que soient les traductions que vous voulez, c'est le premier mot de la Genèse, Bara Elohim, Bereshit, Bara Elohim. Au commencement, Elohim a créé, ou il a créé Elohim, quoi ? Et Hashamayi, Vet Ares, les cieux et la terre. Le mot Elohim, c'est le nom du Dieu de la création. Je vais montrer, par une analyse d'un texte, du Zohar, une autre interprétation révolutionnaire de ce texte. Ça se trouve, le Zohar se trouve, c'est un livre de mystique qui a été pensé au 1er, 2e siècle, mais qui a été rédigé au 12e, 13e siècle par Rabbi Moshe Shem Tov de Léon, une ville en Espagne, et il dit comme ça au début du Zohar, dans la Hagdama, dans l'introduction, voilà, de Réchit. Rabbi Eleazar Patar. Rabbi Eleazar, c'est son nom, Patar a ouvert, c'est-à-dire il a ouvert le verset, il a voulu interpréter le verset, mais interpréter c'est ouvrir. Parce que les mots, ce sont des boîtes. Et dans ces boîtes, il y a plein de sens différents. Les gymnastes ont une très belle phrase, que je garde en général pour plus tard, mais j'ai dit maintenant, parce que c'est maintenant que ça s'impose. Il dit, en chaque mot, il y a un oiseau aux ailes repliées qui atteint le souffle du lecteur. C'est dans Nouvelle Lecture Talmudique, page 1736. Et il dit, ce qui est très important quand on commence, quand on donne du souffle à cet oiseau, c'est que l'oiseau va déployer ses ailes. Il faut faire attention de ne pas oublier de monter sur le dos de l'oiseau, c'est ça ce qu'il préfère, et de s'envoler avec. Alors, chaque mot, un mot se dit en hébreu, teva. Rachet teva, c'est les initiales. Teva, c'est le même mot qui est utilisé pour l'arche. L'arche de Noé, c'est en fait le mot de Noé. Noé et ses enfants et les animaux sont rentrés dans un mot pour être sauvés. L'humanité a été sauvée par le mot. Un grand mot, un gros mot. Parce qu'imaginez tous les animaux qu'il y avait, c'était un zoo, c'était pas quasiment. Et on rentre dans le mot, et dans le mot, qu'est-ce qu'on fait avec ce mot? Alors il y a différentes méthodes. Et une des méthodes que j'ai appelée lire aux éclats, c'est de couper le mot en deux. Une des méthodes qu'on a vues tout à l'heure, c'est permuter les lettres. Là, c'est couper le mot en deux. Et intervertir les lettres. Je lis, papa, il a ouvert. Et il cite le verset d'Isaïe 40, 26, ce ou marron et nechem, ou levez vers les yeux, vers le haut vos yeux, et voyez. Mi bara ele, qui a créé cela. Ce ou marron et nechem, levez les yeux. Qu'est-ce que le commentaire dit ici? Et comment le texte d'Isaïe fait ce commentaire? Quand je regarde le texte, c'est là que j'ai eu la surprise en préparant ce texte dans Isaïe, de voir que je ne connaissais pas ce texte, enfin je le connaissais mais je n'avais pas du tout, et il est absolument merveilleux. Sur ma robe les frères pour eux mi baraï, amoti benista sevaam. Je viens de traduire, celui qui fait sortir par nombre les armées des cieux, le Koulam, à chacun, à tous, Bechem Ikra, il les appelle par leur nom, Merov Oli, Ve'amit Soar, Ish Loneva, il donne de la force à chacun, et aucun n'est disparu, chacun est compté. Là, il y a quelque chose d'absolument essentiel. Dans cette lecture dans ce commentaire, c'est que la Genèse commence par le fait que chacun a un nom. Chacun et compter. Quand on appelle les personnes à lire le Sefer Torah, le livre de la Torah à la synagogue, on les appelle, et d'ailleurs appeler et lire c'est le même mot, on les appelle par leur nom, en disant que vienne un tel ou une telle, c'est devant les synagogues, fils ou fille de un tel et une telle. Ça veut dire qu'on restitue l'individu dans sa généalogie. Ce qui est important, c'est d'avoir un nom. Mais un nom, c'est qu'on est fils ou fille de tel et de tel. Quand on a vu tout à l'heure, dans le verset de base, la première fois où le mot livre apparaît, Zesefer Toldot, voici le livre des engendrements. Il est extrêmement important que chacun se resitue dans sa généalogie, c'est-à-dire dans son histoire. Et si chacun était dans son histoire, je pense que les psychanalystes auraient beaucoup moins de travail. Vous imaginez que un des problèmes essentiels, c'est sa place dans l'histoire des générations. Ce que dit ici le texte, aucun être n'est manquant et chacun est appelé par son nom. Mais quel est le commentaire? C'est que le verset dit qui a créé cela. Ça serait plus facile avec un terme, mais je vais essayer oralement. C'est que le mot Elohim, vous comprenez le mot Elohim? Je fais une pause. Qui suis? Non, faire différemment. Qui dort? Alors, vous pouvez dormir tranquillement, je suis. Pourquoi? Parce que comme je n'ai pas mes lunettes, je ne vois rien. Donc, en fait, enfin, je ne vois pas, après la digitale rangée, je vois. Donc, faites vraiment comme vous sentez bien. En fait, c'est d'être bien. Bon. Maintenant, l'idée, c'est que le mot Elohim, ça veut dire Dieu. Ça s'écrit en hébreu, Aleph, Lamed et Yod-Mem. Aujourd'hui, je vais vous dire qui est Dieu. C'est lui pour ça. Et Dieu, on l'a vu tout à l'heure, c'est ayez ce je serai. Mais ce n'est pas le Elohim de la création du monde. Imaginons que ce mot Elohim, je le coupe en deux. Et je prends déjà la phrase, le mot qui veut dire Dieu. Parce que Elohim, c'est un pluriel. Mais Dieu en hébreu, c'est elle. On l'a vu au tout début. Or, elle, Aleph, Lamed, ça veut dire en hébreu, puisque c'est de l'hébreu, au moins deux choses, puisque l'hébreu est amphibologique. Ça veut dire Dieu, mais ça veut dire en direction de. Je vais par exemple à Paris, Ami Olex, je marche, Ami Nocia, je voyage, elle passe. C'est-à-dire que Dieu qui veut dire en direction, c'est que s'il y a du divin en moi, non seulement j'ai le ayé du futur dont j'ai parlé, mais je suis pris par cette dynamique d'aller vers. Vous voyez? C'est quasiment du tai chi, le zen. Maintenant, il est comme ça, maintenant il est comme ça, tout à l'heure il va être comme ça. Bon. C'est que la dimension, c'est ce qui est important, c'est cette dynamique. Elle. Mais imaginez que je lise le mot Elohim en prenant le mot elle qui veut dire Dieu et en direction, je lis littéralement elle ayam, vers la plage. Dieu, c'est aller vers la mer. Aller à la plage, elle ayam. Alors vous croyez que c'est une blague, c'est une lecture possible. Maintenant, ce n'est pas la lecture que le Zohar a retenue. Et lui coupe le mot différemment. Il prend la dernière lettre, le même, et une des lettres du milieu, l'avant-dernière lettre, qui est le Yod, il coupe en deux les trois premières lettres et les deux dernières lettres. Et il inverse les deux dernières lettres, et Yam, qui veut dire la mer, ou qui était le pluriel im dans Elohim, devient mi, qui veut dire qui est la question de l'identité. Et les trois premières lettres, Elo, Aleph, Lamed, et restent en étant lues différemment, comme je l'ai dit que l'hébreu est consonantique, on peut mettre d'autres voyelles, et lu Elé, qui veut dire ceci. Et donc Elohim n'est plus Dieu, mais ni Elé, qui sont ceci. Ça veut dire que Dieu est celui qui me permet de poser la question de l'identité de celui que je vais recevoir et accueillir. Et là, on va découvrir quelque chose de tout à fait étonnant. Est-ce que vous me suivez sur ce point précis de l'héroïne? Oui. J'ai compris que vous voulez que je fasse une démonstration graphique. Ce sera plus simple. La suite après une page de plus. Je ne suis pas sûr de réapparaître. Donc, alors le Seigneur, c'est pas ça. Elohim s'écrit en français comme ça. Et alors, le stylo sait que Dieu est imprononçable. Et il n'est pas bien inscriptible. Et donc, comme. Bon, c'est un peu visible, on ne sait pas. Bon, en hébreu. Ça va. L'hébreu vient beaucoup plus tard. Allez. Merci. Merci beaucoup. Alors. Ah. Enfin, presque. C'est de loin. Aleph, Lamed et Yod-Mé. Et le Aleph, Lamed et Yod-Mé. Quand je coupe en deux, comme tout à l'heure, j'ai ici L en direction à Yam de la mer, de la plage, de l'océan. Yam, c'est l'océan. Ce que va faire le texte, ici, il va couper en deux, non pas L à Yam, mais ici. On a Aleph Lamed Hé qui va se prononcer Elé, qui veut dire ceci, et on a Yod et Mem ici, en Égyptini, qui va dire qui? Elohim, Dieu, qui était une entité linguistique qui pose un Dieu, devient une question, et une question sur l'identité de ceci ou cela. Et on va se poser la question, mais c'est quoi cette idée de qui sont ceux-ci? Et j'ai fait une grande découverte dans le texte de la Genèse, quand dans au chapitre de la Parasha Vayechi, c'est-à-dire quand Jacob va appeler Joseph pour le bénir, il va y avoir une formule tout à fait intéressante que je voudrais vous lire. Nous sommes dans le chapitre 48. Vayehi acharei hadvarim haele, ce fut après ces événements-là, vayomer el Yosef, on dit à Joseph, il dit à Joseph, on ne sait pas qui, ine avicha kole, voici que ton père est malade. Joseph, fils de Jacob, ton père Jacob est malade. Vayikat et shnei banav, il prit ses deux enfants avec lui, et menaché vers Ephraim, menaché Ephraim. Vous connaissez cet épisode-là? Donc, Joseph a deux enfants, Menaché et Ephraim. Dans l'ordre, Menaché et Ephraim. Vayagel Yaakov, et il dit, il fut raconté, on dit à Jacob, Vayomer, et il dit, Ine bincha Yosef ba Elecha, voici que ton fils Joseph vient à toi, et Vayitrazek Israël, Vayeshev à la Meta, et Israël vers Jacob, s'est renforcé et s'est assis sur son lit. Vayomer Yaakov et Yosef. Jacob dit à Joseph, El Shaddai Nira Elai, le Dieu qui s'appelle Shaddai, et là il faudra travailler, c'est un troisième nom de Dieu, m'est apparu, Belou, dans une ville qui s'appelle Lou, Be'eret Kenan en pays de Kenan, et il m'a béni, Vayomer. Vayomer Elai, il m'a dit, Ineni Mastecha, voici que je vais te rendre fécond, Ve'iritikha, je vais te rendre nombreux, Unetatikha Alamim, et je te donnerai pour une nation de peuple, et je te donnerai cette terre-là, à ta descendance, après toi, héritage éternel. Ve'ata, et maintenant. Shene Vanecha Aloladim Necha Be'eret Yisrael. Et voici, et maintenant les deux enfants, tes deux enfants, qui te sont nés dans ce pays d'Égypte, Adbo'i et Necha, avant que je vienne vers toi, c'est-à-dire que je descende moi aussi en Égypte. L'IM, il faut pour moi Ephraïm ou Menaché. Ces deux enfants, Ephraïm et Menaché, qui réouvènent de Shimon Yimli, ils sont pour moi comme mes propres enfants, Reuven et Shimon. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un grand-père, c'est Jacob, qui fait venir son fils, Joseph, qui vient avec ses deux enfants, Ephraïm et Menaché, qui sont donc les petits-enfants de Jacob. Et Jacob lui dit, voici ces enfants-là, Ephraïm et Menaché, ils sont pour moi comme Réhouven et comme Shimon. Ce sont mes propres enfants. Je veux les assumer comme mes propres enfants. Et tous les commentateurs de la question, mais qu'est-ce que Jacob a besoin de pouvoir assumer ses petits-enfants comme ses enfants? Et je reviens à ça. Il dit, ces deux enfants, Ephraïm ou Menaché, qu'est-ce que vous, pour ceux qui suivent, c'est plus long, qu'est-ce que vous remarquez? J'ai insisté qu'au début, quand il est venu avec ses deux enfants, c'était Menaché et Ephraïm. Et là, le verset dit, il parle, il dit Ephraïm ou Menaché. Pourquoi il inverse? Deux questions. Un, pourquoi il inverse? Et deux, pourquoi il veut les adopter? La réponse est simple. C'est que si vous aviez le texte en hébreu devant vous, le mot li-em, Ephraïm ou Menaché, le mot li-em, ils sont pour moi, plus la lettre Aleph de Ephraïm, et puis le mot Elohim, qui est le nom de Dieu dont je viens de parler. Et pour pouvoir écrire Elohim, il a dû inverser Ephraïm et Menaché. Mais ça ne donne pas la réponse pourquoi il a besoin de les. Alors il dit comme ça, il dit Vahani, il dit, ils sont pour moi, comme si c'était leurs propres enfants. Ou Mola de Techa, Asher Ola de Tahareem, le Khalim. T'as deux enfants, pour l'instant c'est plus tes enfants, c'est mes enfants. Ce qui viennent après, ça sera pour toi, mais maintenant c'est le mien. Et ensuite il lui dit, Hashem a fini à Mitraou de la Halata, ceux qui viendront après prendront leur héritage dans les rêves. Va ani bevoim padana ou padan, et moi quand je suis venu de Padan, Meta alay Rachel, Rachel est mort pour moi, Be'eres Kenan va derer, elle est morte en chemin. Je l'ai enterré là-bas en chemin, c'est à côté de Bethléem, à côté de Bethléem, là où il y a aujourd'hui le tombeau d'Hachem. Et le verset étonnant dit « Vayar et Israël et Bené Yosef ». Israël, c'est Jacob, c'est Israël, vit les enfants de Joseph. Non, il vient les voir. Il lui a demandé, il a dit déjà, juste à la phrase d'avant, il lui a dit « Et les enfants lui... » C'est bon. Il voit les enfants de Joseph, Bayomer et il dit « Ni elle est... » Qui sont ceux-là? C'est-à-dire qu'il écrit précisément, intertextuellement, le verset d'Isaïe chapitre 40, verset 26, où le nom Elohim est coupé en deux pour devenir Ni-Elé, la question de l'identité. Et là, il dit, tes enfants, c'est plus tes enfants, c'est mes enfants, je veux les adopter. Et on a compris qu'il savait qui c'était. Pourtant, il les voit, il a besoin de dire Ni-Elé. Qui écrit le mot Elohim. Va yomer Yosef. Yosef répond, elle a dit à son père, Banaïem, c'est des enfants. Asher Natani Elohim Bazé, que Dieu m'a donné Bazé, avec cela, va yomar, et il dit, Kachem Naïlal, approchez de moi, je vais les bénir. Et là, comme c'est le célèbre passage que vous connaissez, où Jacob a permuté ses mains, et il a béni l'aîné à la place du second, et le second à la place de l'aîné. Mais Rachid dit ici une chose extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les enfants que Dieu m'a donnés, basé avec cela. Et Rachid dit, il sort une petite amulette, et il lui montre cette amulette. Et on comprend tout. C'est quoi cette amulette? Cette amulette, c'est une amulette dans laquelle il est marqué. D'où elle vient, c'est que une des filles, Joseph, était très très beau. Il y avait un problème, il était très beau. n'est pas beau, mais beau. Tellement beau que toutes les femmes qui le voyaient se mordaient la langue tellement il était. D'ailleurs, la femme de Poutifar, qui véritablement n'a pas arrêté de l'ennuyer toute sa vie, en lui disant textuellement dans le texte, mais vraiment de manière très crue, il disait « couche avec moi tous les jours ». Et vous rappelez que Kundera, dans une version de son livre, dit que la première fois qu'elle a vu que c'était tellement beau, et sinon, elle a commencé à zoneter, elle dit « couche, couche avec moi ». Certains disent que c'est l'origine du couscous, je ne sais pas. Cela dit, Et, non mais, c'est sérieux, hein, je ne l'invente pas, vous voyez que je suis capable de dire du couscous. Non. En tout cas, Joseph n'a pas cédé à la tentation. Et il se promenait, il était vice-roi d'Égypte, il se promenait dans son char, et toutes les jeunes filles allaient sur les remparts, dit le Midrash, et essayaient de séduire. Et un jour, une de ces jeunes filles lui envoie dans son char une petite amulette. Il regarde l'amulette, il regarde la fille, il a dit, c'est elle qui va devenir ma femme. Qu'est-ce qui était marqué dans cette amulette? C'est marqué, elle s'appelait Osnat, cette femme, cette jeune fille, Osnat, fille de Dina, fille de Jacob. C'est ça le secret de Dieu. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas une question bizarre, terrible. C'est que Dina, dans le chapitre 34 de la Genèse, sort pour regarder, aller voir les filles du pays, c'est en un mot, en français contemporain, on va dire, pour se faire les copies. Et là, il y a un individu qui s'appelle Shrem ben Hamor, c'est ça, ou Hamor Hussein, Shrem ben Hamor, qui la voit, qui tombe amoureux d'elle, mais il ne sait pas comment faire. Bref, en un mot, il va la prendre, il va la geler, et ensuite ça va être terrible parce que les deux frères des frères à cette fille vont venir et vont massacrer toute la famille de Shem. Jacob sera terriblement saisi par cette histoire. Mais il y a quelque chose vraiment de terrible qui va se passer, c'est que de ce viol, Dina, fille de Jacob, va être enceinte. Et elle va être enceinte d'une fille qui est cette fille. Mais au moment où elle est enceinte, raconte le Midrash, les gens disent, c'est la fille de Jacob qui a été violée par Shrem, ben Hamor. À chaque fois qu'elle passait dans la rue, on disait, c'est la fille qui a été violée, c'est la fille qui a été violée. À ce moment-là, ils ont décidé de l'envoyer loin pour qu'elle ne supporte plus l'ensemble de ces malédictions, de cette manière d'être maladie. Mais, qu'est-ce qu'a fait Jacob pour sa fille? Il lui a pas dit, ma fille, tu as été violée, tu t'es mal conduite, c'est certainement toi qui es responsable, tu as dû le séduire, etc. Il prend entièrement son parti et il dit, c'est pas parce qu'il t'est arrivé cette chose terrible que je te rejette. Ma fille, tu seras toujours ma fille. Et je prie une amulette dans laquelle il est marqué Dina, fille de Jacob. Et quand tu auras une fille de ce viol, tu dois l'aimer comme ta fille parce que c'est véritablement, c'est un être humain, c'est ta fille. Et tu marqueras Osnat, fille de Dina, fille de Jacob. J'assume entièrement la généalogie. Et lorsque Osnat a envoyé cette amulette, il comprend que c'est de sa famille, c'est sa nièce tout simplement, et il décide de l'épouser. Mais on aurait pu croire, et Joseph souffrait, d'épouser une fille d'un viol, et ses enfants étaient les enfants d'une fille qui est le résultat d'un viol. Quand il les voit, Jacob, il dit, n'aie pas peur, c'est tes enfants, c'est comme mes enfants. C'est-à-dire qu'ils ont le fait qu'ils ont été exclus par la société, que Dina a été rejetée, que Dina a été maldite, que Osnat est la fille d'un viol, que eux ce sont les petits-fils d'un viol, c'est pas grave. C'est mes enfants,
comme mes propres enfants, mi élevés.
Et là, on a une chose fantastique.
C'est que le mot Elohim, en hébreu, dans le commentaire du Zohar, qui a besoin de couper le mot en deux pour dire mi élevé,
et que ce mi élevé renvoie
de manière intertextuelle aux enfants de Joseph, ça veut dire que Dieu, il est présent à chaque fois qu'il y a une réinsertion de tous les esprits. À partir du moment où quelqu'un, pour une raison ou une autre, pour une maladie dont on a peur, pour une situation sociale qui ne fait pas plaisir, tous ces gens qui sont à l'extérieur de la communauté, le fait de les réinsérer dans une généalogie, dans une communauté, c'est ça qui dit qu'il y a du divin. Que Dieu existe ou pas, on n'en a strictement rien à faire. Parce que d'abord, on ne le saura jamais. Mais de faire exister Dieu par la réinsertion de tous les exclus, alors cela est tellement extraordinaire que le nom qui est utilisé pour dire la création du monde, c'est le même nom, à savoir qu'à chaque fois que je réinsère un exclu, je dis Elohim, le même qui a dit Bereshit bara Elohim et Hashamayim v'et Haaretz. C'est-à-dire que je recrée le monde. Le monde pourra s'effondrer, mais il ne s'effondrera pas seulement parce qu'il y a un problème de dérèglement du climat. Il s'effondrera parce qu'il n'y aura pas eu une force éthique qui permet qu'il y ait une fraternité réelle au sens de cette réinsertion de tous les esprits. Voilà le deuxième sens, le deuxième nom dont on a parlé, et je résume dans notre propos. Nous voulons savoir qui est Dieu, je vous l'avais promis, je vous l'ai dit, voilà qui est Dieu. Le premier, cette dimension de futur, qui est surtout liée, apparemment, à la dimension subjective. C'est moi, ayez, je serai. On pourrait croire, à partir de ce moment-là, que le divin, elle, qui veut dire en mouvement, est une dynamique subjective. C'est-à-dire que je peux être égoïste dans ma théologie. Je me réveille le matin, bonjour les mouettes, yes, je serai, mais là je suis seul. Le nom Elohim vient rappeler à cette dimension de futurisation de son propre moi que cela n'a de sens, non seulement si je suis dans la capacité d'un futur, mais si je rends possible pour chacun de la communauté des hommes la possibilité de leur futur. Et il n'y a pas plus terrible que d'être exclu. Il n'y a pas plus terrible que d'être exclu, parce que dans l'exclusion, il y a la dimension de la solitude. Et il n'y a pas plus terrible que la solitude. Il peut y avoir des choses terribles que sont la maladie et toutes ces choses mal, mais la solitude est quelque chose qui fait qu'un homme perd sa dimension même d'homme, dans la mesure où on a vu que l'existence, le yesh, c'est le shal, c'est la dimension du cadeau. Et cette dimension de redonner à chacun une place dans la communauté et dans la généalogie est quelque chose qui est absolument essentiel. On va arriver maintenant au troisième terme dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le terme de Shalom. Juste une petite question. J'ai commencé à 8h30, c'est ça? Vers quelle heure il sera 10h30? D'accord. Il sera 10h30 dans un quart d'heure de nuit. C'est-à-dire que j'ai encore un quart d'heure. Voilà. Je me laisse un quart d'heure. J'ai peur simplement de ne pas avoir commencé l'introduction de ce que je voulais dire. Alors, c'est problématique. Il y avait dans ce texte de Jérémie, de Isaïe, quelque chose que je voulais rajouter. Une petite remarque, qui est la suivante. Tout de suite après, c'est marqué, justement, qui est Dieu? Allo yadata imlo shamata eloyola adonai vore ketsot aaretz lo yaf velo yiga
Dieu ne se fatigue pas. Dieu ne se fatigue pas. Dieu n'est pas un Dieu fatigué. Il est tellement pas fatigué, noten la yaes koa, ou le enonim otsma yarde. À celui qui est fatigué, il donne la force. À celui qui n'a plus de force, il rajoute encore de l'énergie et de la force. Quand j'ai vu ce verset tout de suite après Mi Bara Ele, j'ai compris ici qu'il y avait un remèze, une allusion. En fait, comment les maîtres de la Kabbale ont su que ce verset parlait de la création du monde de l'Éonie, c'est que le mot Koah, qui veut dire la force, quatre de l'être, est extrêmement intéressant en hébreu, car troisième méthodologie qu'on apprend ce soir, je révise toutes les méthodes que nous avons apprises. La première, c'est que l'hébreu peut permuter les lettres. La deuxième, c'est l'ensymbologie, c'est les deux sens. La troisième, c'est que les consonnes peuvent recevoir des voyelles différentes. Et la quatrième, c'est ce qu'on appelle la gématria, c'est-à-dire la valeur numérique ou l'équivalence numérique. C'est un jeu facile et dangereux, parce qu'on peut dire tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a des règles. La vérité, c'est qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Mais il y a quand même des règles, et en général, on sait ce qui est audible et ce qui n'est pas. Et l'idée ici, c'est que le mot « koah » renvoie au début de la Genèse, comme juste avant le verset de « Mi Bara Ele », il y avait le mot « tohu » qui se retrouve dans la Genèse dans « tohu bohu » des premiers versets de la Genèse. Où apparaît le mot koah, la force, dans le premier verset de la Genèse. Quand je dis en hébreu, écoutez bien, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, au commencement de Dieu créé le ciel et la terre, vous n'avez pas du tout entendu le mot koah. Donc ce n'est pas phonétiquement qu'on va le trouver, mais par une équivalence numérique. Quelle équivalence numérique? C'est que l'hébreu et les mots en hébreu ont un certain nombre de lettres. Et en fait, ces mots sont structurés selon une certaine logique mathématique. C'est grâce, aujourd'hui, à Pythagore, on peut le savoir, mais c'est extrêmement intéressant de le rappeler. Vous vous souvenez que Pythagore fait la distinction entre ce qu'il appelle les nombres excessifs, les nombres déficients, et les nombres parfaits. En fait, c'est ça. Un nombre excessif. Comment on dit un nombre? C'est qu'un nombre de choses, c'est à la fois ce qu'il est dans sa totalité et ce qu'il est dans ses parties. Par exemple, je peux dire qu'ici, il y a un certain nombre de personnes. D'accord? Mais je peux dire aussi, il y a une assemblée. Donc, c'est une assemblée, c'est le mot. Un certain nombre de personnes, ce sont les parties de ce mot. Au niveau mathématique, c'est ce qu'on va appeler le nombre, c'est la totalité. Et les diviseurs, ce sont les parties. Or, si je prends par exemple 9, 9 est un nombre, est divisible par 3, est divisible par 1. Ce sont les diviseurs. À part 9 lui-même qu'on ne compte pas, les diviseurs de 9, c'est 3 et 1. La somme des diviseurs 3 et 1, 4, est inférieure à 9, c'est un nombre déficient. Si je prends par exemple 12, qui est divisible par 6, par 4, par 3, par 2 et par 1, la somme des diviseurs est égale à 16, le nombre 12 est excessif. Il est extrêmement rare que la somme des diviseurs est égale au nombre lui-même. Il y a entre 0 et 1000 que 3 nombres qui correspondent à cette définition. C'est 6, 28 et 485. Quand je prends 6, 6 est divisible par 3, par 2, par 1, 3 plus 2 plus 1 égale 6. C'est le nombre parfait. 28, exactement la même chose. C'est-à-dire, d'un point de vue éthique, que chacun des diviseurs, c'est-à-dire des nombres qui composent le nombre général, est équivalent, la somme de ceux qui sont présents est équivalent à l'assemblée. Une assemblée sera éthique si l'ensemble des personnes qui s'y trouvent, chacun a son importance, chacun a sa place, chacun a la même valeur, et la somme de chacun, c'est la totalité. Bereshit, Au commencement, premier mot de la Genèse, Bet Resh Alefshin Mutav, Shilet. Le premier mot de la Genèse en hébreu, à Shilet, c'est un nombre parfait. Le premier verset de la Genèse, Bereshit Bara Elohi et Hashem Yivetaret, possède 28 lettres. Le premier verset a une structure de nombre parfait. Bien évidemment, si le premier chapitre ou la première paracha avait 496 lettres, je serais déjà en train de lancer sur la table, parce que je pourrais démontrer quelque chose, et heureusement, ce n'est pas démontrable, parce que j'aurais dit, tiens, c'est génial, Dieu existe. Non, rien. C'est simplement une constatation. Mais, le premier verset de la Genèse a donc 28 lettres, et écrit le mot Koach, qui veut dire la force, ça a été retenu dans le texte de la Kabbale. Koach, Atvan, Mas, Demas et Bereshit, les 28 lettres de, les 28 lettres de la création. Et ce mot Koach, cette force, on va le retrouver aussi dans un mot très important qui est celui en hébreu qui dit le mot sagesse, qui se dit Chokhma. Et le mot Chokhma, on va jouer de la même façon, on le coupe en deux, dit Rosetta, et on intervertit encore les deux premières lettres. Et au lieu d'avoir Chokhma, on a Koachma, qui veut dire la force du quoi ? Ça veut dire la force du questionnement. La sagesse, c'est la force du questionnement. Être sage, c'est pas savoir, c'est continuer à questionner. Mais pour cela, il faut qu'il y ait de la patience. C'est pour cela que le même mot sagesse, coupé d'une autre façon, écrit le mot Chaka. Chaké, mechaké, qui veut dire celui qui attend. Mechaké, c'est celui qui attend. Il n'y a de sagesse que dans la patience du sens. On ne peut pas découvrir entièrement tout, tout de suite. La prise du tout, tout de suite, c'est pas possible. C'est que Lévinas, ça tenait, vous rappelez, je l'ai dit déjà 150 fois, ou une fois, ou deux fois, je ne sais plus, que si on ne peut pas prendre toutes les choses tout de suite, on ne peut pas les prendre en main, je ne peux pas prendre la bouteille en main, parce que si je la prends tout de suite en main, eh bien, si je la tiens, la bouteille, je la tiens, maintenant, tiens. Ça s'appelle maintenant. Bon. Le maintenant, c'est le mot égalitaire repris par les classes. Le présent du maintenant, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la tenue. Or, si je ne prends pas le sens, mais je prends le temps de déployer le sens, la main ne se referme pas sur l'objet, mais reste ouverte, c'est ce que les classes appelaient la philosophie de la classe. Donc là, on est dans un temps que l'on prend. Et on arrive à ce nom qui a été proposé tout à l'heure par Jacob lui-même en disant « Le Dieu Shaddai m'est apparu. » Qu'est-ce que c'est que ce Dieu Shaddai ? Et pourquoi dans notre question de la foi, de savoir si on a la foi ou pas, la question du nom Shaddai est si importante ? Et le texte du Talmud, dans le Tetzer Chagiga, dit le mot Shaddai vient d'une contraction d'une expression en hébreu, mi shama leolamo dai. Celui qui a dit au monde, dai, ça suffit. Dai en hébreu, c'est dire ça suffit. Shaddai, shedai, que ça suffit. Et de quoi s'agit-il? Dans la Kabbalah, on dit Shem Shaddai, Shem Asimtsum. Le nom Shaddai, c'est le nom du Tsimtsum. Or, Tsimtsum, c'est pas du japonais. Ça veut dire cette chose tout à fait extraordinaire, et cette idée révolutionnaire qui a été organisée par Rabbi Yitzhak Luria au XVIe siècle, qui dit la chose suivante, si Dieu existe vraiment, son être est infini. Infini. Il n'y a donc pas de place pour autre chose que lui-même. Mais pourtant, vous êtes là, je suis là, nous existons, le monde existe. C'est que, dit le texte, Dieu a dû se retirer de lui-même en lui-même pour faire un espace vide, un creux, au centre de lui-même. Ce qui est très difficile de faire un centre au milieu de l'infini. Mais paraît-il, dit Pascal, que l'infini, c'est une infinité de cercles dont chaque point est le centre. Et donc, au centre, il se retire. Et une fois qu'il s'est retiré de cette disparition de Dieu, qui se dit en hébreu, le verbe disparaître se dit « né et l'âme », le « it alem », ça a donné le mot « olam », qui veut dire « le monde », c'est-à-dire que le monde est le lieu de la disparition de Dieu. Si C'est normal qu'on ne voit pas Dieu. C'est normal qu'on ne sache pas Dieu. Car Dieu n'est pas là. Et pourtant, il est là. C'est-à-dire qu'on doit assumer à la fois il n'est pas et il est. La croyance, ce n'est pas l'affirmer qu'il est. C'est de pouvoir assumer la contradiction de son être et de son non-être. Et à l'intérieur de cet espace vide de Dieu, qu'on appelle un espace athéologique, va se passer plein de choses, et en particulier, des choses terribles. Vous avez vu que le mot terrible, je l'ai utilisé plusieurs fois ce soir. Le mal, par exemple, existe parce que Dieu s'est retiré. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le retrait de Dieu? Avec le retrait de Dieu, je vais vous donner une citation qui inaugurera une autre citation et qui conclura par une autre citation. J'ai envie de faire une citation que je n'avais pas prévue entièrement puisque le livre m'a appelé. Et très souvent, je prends des livres dans mon cartable et après, je ne les cite pas. Mais la nuit, je ne dis pas comment il me casse les pieds. Ouais, tu nous as pris dans le cartable, tu ne nous as pas ouvert, etc. Donc, je suis obligé de les ouvrir. Vous voyez ? Et là, il y a un chapitre, un livre très très important. Il me reste encore 7 minutes. Il y a un chapitre très important, une citation très importante de Jean-François Lyotard dans un livre qui s'appelle « Au juste ». Vous allez voir pourquoi c'est important cette phrase, cette citation. Parce que vous pouvez vous poser la question si ce que j'ai dit ce soir est quelque chose qui est définitif, quelque chose que je vais répéter intégralement quand je vais donner un enseignement dans un autre lieu. Si je répète ce que j'ai dit ce soir, bien que je l'ai déjà dit certainement ailleurs sous d'autres formes, mais si c'était la même parole, ce que je dis d'un point de vue géométrique, c'est un cercle, c'est une répétition. Où est la droiture? Il s'agit d'être droit, c'est-à-dire d'être yachar, comme on le dit. Et le mot yachar, elle, qui veut dire droit et en direction de, ou droit et Dieu, ou Dieu et droit, écrit le mot Israël, yachar, elle. L'israélité de l'homme, c'est la capacité de sortir de l'enfermement du cercle vers la droiture de la ligne. Mais pour cela, il faut être capable d'innover. Mais comment on innove? Alors là, il y a une citation très belle, Lyotard, et il dit « Dieu, c'est un peu théologique et anti-théologique. Dieu ordonne. On ne sait pas très bien ce qu'il ordonne. Il ordonne d'obéir. C'est-à-dire de se mettre dans la position de ce jeu de l'obligation. Voilà. Ensuite, il va ordonner toute une série de petites choses invraisemblables. Comment il faut faire cuire l'agneau, pas dans le lait, comment, etc. Et ainsi de suite. Ce qui surprend, parce qu'on n'attend pas de Dieu et on n'attend pas que Dieu donne des recettes de cuisine. Et ça surprend les Juifs aussi. Ce qui est propre au judaïsme, c'est de dire, eh bien, Dieu lui-même, on n'en sait rien. Et il n'y a rien à en dire. On appelle ça Dieu, mais finalement, on ne sait pas ce qu'on dit quand on dit Dieu. On ne sait rien de ça. On dit simplement, il y a une loi. Et quand on dit une loi, cela ne veut pas dire que cette loi est définie et qu'il suffit de s'y conformer. Car justement, il y a une loi, mais on ne sait pas vraiment ce que dit cette loi. Il y a une espèce de loi des lois, une métaloi qui est « soyez juste ». Mais justement, nous ne savons pas ce que c'est qu'être juste. C'est-à-dire que nous avons à être juste. Ce n'est pas « soyez conforme à ceci », ce n'est pas « aimez-vous les uns les autres », tout cela c'est la blague. Soyez juste coup par coup. Il faudra à chaque fois décider, se prononcer, juger, et puis méditer si c'était ça, être juste. C'est-à-dire que la justesse de la justice, c'est que nous n'en avons pas fini avec la réflexion de savoir si ce que nous faisons ou si ce que nous disons, ce en quoi nous nous engageons, c'est ça la justesse. Dire cet homme est juste, il est déjà plus juste. Mais ou dire je suis juste ou c'est une pensée juste, c'est déjà plus juste. Parce qu'il s'agit de reposer la question de la justesse, à savoir de réajuster. Et à ce moment-là, il y a des questions fortes dans l'humain. Cette idée qu'il y a le mal, et cette idée qu'on se pose de l'absence de Dieu. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait quand Dieu est absent? Et là, je trouvais cet après-midi une citation. Ce qui est bien en venant là-dessus, c'est qu'il y a quand même 6 heures de route, donc il y a la lecture. Dans la bibliographie de ce soir, je vous propose ce livre de Eti Ilsou, enfin, le livre de Sylvie Germain, qui s'appelle Eti Ilsou, Chemin des fermetés. Et là, il y a une citation de Lévinas, dans D'ici Liberté, page 178 et 179. Il y a sur la voie qui mène à Dieu, qui mène au Dieu unique, un relais sans Dieu. Le vrai monothéisme se doit de répondre aux exigences légitimes de l'athéisme. Un Dieu d'adulte se manifeste précisément par le vide du ciel enfantin. Moment où Dieu se retire du monde et se voile la face. C'est le signe tout. Dieu qui se voile la face n'est pas, pensons-nous, une abstraction de théologien, ni une image de poète. C'est l'heure où l'individu juste ne trouve aucun recours extérieur, où aucune institution ne le protège, où la consolation de la présence divine dans le sentiment religieux enfantin se refuse elle aussi, où l'individu ne peut triompher que dans sa conscience, c'est-à-dire nécessairement dans la souffrance. La position des victimes dans un monde en désordre, c'est-à-dire dans un monde où le bien n'arrive pas à triompher, est souffrance. Elle révèle un Dieu qui, renonçant à toute manifestation secourable, en appelle à la pleine maturité de l'homme responsable intégralement. Et là, il y a deux situations. Parce qu'il faut terminer, disent les maîtres, sur quelque chose de bien. On ne va pas terminer sur quelque chose de triste ou de complexe. Il y a une citation ici qu'on va reposer, c'est fait. Deux citations, je n'aurais pas mis. Enfin, je ne vais pas terminer parce que ça serait injuste. C'est-à-dire, je m'arrêterai pour dire qu'il faudra réajuster infiniment la parole que j'ai proposée ce soir. Et il y a cette phrase, qui a été retrouvée, qui est écrite par un juif qui passa toutes les années de la guerre caché dans une cave à Cologne. Et écrit, il lit sur l'un des murs de son cachot. Et je vais peut-être l'écrire pas sur mon cachot. Je crois au soleil, même quand il ne brille pas. Je crois en l'amour, même quand il ne m'encourt pas. Je crois en Dieu, même quand il se fait. Et un des écrivains les plus importants pour moi, je vais vous dire qu'on a fait beaucoup, Bobin, histoire. Dans Souveraineté du vide, page 32, et vous comprenez Souveraineté du vide par rapport au Tintou. Je termine par cette citation qui est un peu longue, mais Dieu, c'est le nom de quelqu'un qui a des milliers de noms. Il s'appelle Silence, Aurore, Personne, Lila, et des tas d'autres noms, mais ce n'est pas possible de les dire tous, une vie entière ne suffirait pas. Et c'est pour aller plus vite qu'on a inventé un nom comme celui-là, Dieu. Un nom pour dire tous les noms, un nom pour dire quelqu'un qui est partout, sauf dans les églises, sauf dans les mairies, les écoles et tout ce qui ressemble de près ou de loin à une maison. Car Dieu est dehors, tout le temps, par n'importe quel temps, même l'hiver. Et il s'endort dans la neige, et la neige, pour lui, se fait douce. Elle ne lui donne que sa blancheur, avec quelques étoiles piquées dessus. elle garde pour elle la brûlure du froid. Dieu n'a pas de maison. Il n'en a pas besoin, et d'ailleurs, lorsqu'il voit une maison, il ouvre les portes, déchire les murs, brûle les fenêtres, et c'est tout qui entre avec lui, le jour, la nuit, le rouge, le noir, tout, et dans n'importe quel ordre, et alors seulement, les maisons deviennent supportables. Alors seulement, on peut les habiter, puisqu'il y a tout dedans, le soleil, la lune, la vie, très folle, la douceur, très grande de la folie, les yeux fervents de la folie. Et Dieu repart, ailleurs, toujours ailleurs. À force de traîner les chemins, de s'endormir partout, dans les sources, dans les fougères, dans le nid des mésanges, ou dans les yeux des tout-petits, Dieu est libre d'allure, vraiment. Lorsqu'il n'ouvre pas toutes grandes les portes, Dieu ne fait rien. Ce serait là son métier, ne rien faire. C'est un métier très difficile. Il y a très peu de gens qui sauraient bien le faire, qui sauraient ne rien bien faire. Ne rien faire bien. Dieu, lui, fait rien, il le fait comme ça. De temps en temps, pour se reposer, il s'arrête de ne rien faire. Alors il fait des bouquets, il cueille toutes les lumières du monde, même celles des orages et des antillais, il en fait des bouquets, mais ne sait à qui les offrir. Ou bien il met un coquillage tout contre son oreille et il écoute des musiques, toutes les musiques, toutes les musiques du monde, longtemps il écoute. Et c'est comme un flocon dedans son cœur, un tourment d'écume, le premier âge de la mer, l'immensité de la mer devant son cœur, et Dieu se met à rire, et Dieu se met à pleurer, parce que rire ou pleurer pour Dieu, c'est pareil, parce que Dieu est un peu fou, un peu bizarre. Et si on lui demande ce qu'il a, il dit qu'il ne sait pas, qu'il ne sait rien, qu'il a tout oublié le long des chemins, et qu'il a perdu la tête, perdu son nom, qu'il ne sait plus son nom, et puis il rit, et puis il pleure, et il s'en va, et il s'en vient, et c'est le jour, puis c'est la nuit, et puis voilà, c'est toujours comme ça, chaque jour.
Après cette introduction, je vais commencer la conférence.
Eh bien, merci Marc-Alain Wacknin. On vous écouterait pendant des heures, mais vous risqueriez de devenir à votre tour Radin de Lubavitch et on perdrait peut-être quelque chose, nous qui ne sommes pas trop orthodoxes. Merci en tout cas. Merci à vous tous ici aussi, parce que sans vous cette soirée n'était pas possible. Je voulais aussi remercier le grand rabbin Marc-Alain Wacknin qui nous a fait l'amitié de venir à Genève. Et qui a écouté son ami Rabbin Martin Wacknin. C'est assez rare d'avoir un maître, mais deux le même soir, nous sommes particulièrement gâtés.
Je tenais à le dire aussi, et toute la conférence me disait j'ai oublié de dire quelque chose. Et en fait, c'est ça, parce que je voulais te saluer, dire que c'est un très très grand, vraiment une très très grande angoisse. d'avoir un savant avec. Il faut dire qu'on a étudié ensemble, quand même c'est plus facile. Il y a 30 ans, on a commencé à étudier ensemble, et puis, mais en fin de compte, dès les premières secondes, alors t'as remarqué, je ne t'ai pas regardé toute la conférence, je ne vais pas commencer, mais que. Parce que souvent, il suffit d'un petit geste de la tête, imaginez que je dise quelque chose, et qu'il fasse comme ça, c'est-à-dire que j'ai dit une bêtise. Ça va me troubler. Mais bien qu'aujourd'hui, je suis un peu aguerri, parce qu'il y avait une dame dans une conférence qui était au premier rang comme ça, et toute la conférence, elle n'était pas du tout d'accord. Toute la conférence, dès que je parlais, je me disais, qu'est-ce que je dis, c'est pas possible, pourtant je ne sais pas. Elle vient après la conférence, elle m'a fait comme ça. Monsieur le rabbin, votre conférence était géniale. Voilà, donc je me suis un petit peu habitué, mais quand même. Et en même temps, je me suis dit, bon, mais. Pour un ami d'enfant, parce qu'on s'est connu quand on était jeune étudiant au séminaire, ça m'a permis d'essayer d'être plus philosophique, de penser plus loin, d'être plus métaphysique, de penser encore avec plus de possibilités. Et notre amitié, nos études d'il y a 30 ans, je pense, sont encore très fécondes. Donc je tiens à te remercier vraiment d'avoir été présent, et pour moi ça a été un grand honneur. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter pour que ce soit vraiment très très de dire le plaisir que j'ai eu. Et puis, bien sûr, je ne vous ai pas remercié, mais sachez que... Alors, j'ai dit que vous auriez dû poser des questions. Mais j'ai entendu, dans votre silence et dans votre tsum personnel à chacun, quelque chose de question très très fort, parce que j'ai dit que je ne vois pas, parce que je n'ai pas de lunettes. En fait, je vois chacun. Et là, c'est une manière aussi de me porter, donc c'était très très important. Et je tiens à remercier encore Jean-Marc Ventre et Hélène. C'est ça, c'est bien Hélène. Voilà, il faut que chacun se comprenne. Et bien, je dis, oui, oui. Ah oui, mais c'est marqué dans le texte que l'homme n'existe pas seul, exerce une égo. C'est, ah, voilà, l'homme est une, c'est masculin et féminin. Donc, voilà, donc merci.
Alors, je rappelle que la semaine thématique va continuer avec les études bibliques tous les midis, entre midi et 14h, que demain c'est l'imam Mohamed Ayari qui était présent tout à l'heure qui fera l'étude biblique, puis ensuite ça sera le pasteur évangélique Yves Affeltranger, jeudi, et puis le pasteur Didier Daval de l'église réformée vendredi, un concert de gospel avec le groupe Good News samedi soir à 20h30, ici c'est bien 20h30, et pas comme les journaux l'ont marqué à 20h pour cette conférence. Et dimanche, on fermera cette semaine avec un culte qui sera présidé par le pasteur Pierre Grossin, notre ancien pasteur. Alors je souhaite que vous rentriez bien tous chez vous. On a vécu ici dans le lieu du pourquoi, donc on sait maintenant que c'est le lieu du bien, mais Dieu est dehors, on nous l'a expliqué, et donc n'ayez pas peur de retourner vers vous, c'est là que vous le trouverez. Bon retour à tous.